Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur cette libre antenne du samedi soir. Fanny, Théo et moi sommes ravis de vous accueillir pour ces 2 heures de partage et de confidence. 2 heures pendant lesquelles vous venez chaque soir nous ouvrir votre cœur. Et Dieu sait si écouter notre cœur et son intelligence, c'est important. Savez-vous que le champ magnétique qui vient du cœur est le plus puissant de l'organisme et qu'il est détectable à plusieurs mètres de distance? Et si cette énergie-là rencontrait celle des gens que nous croisons? Et si cette énergie devenait plus belle quand elle est nourrie de reconnaissance, de non-jugement, de pardon ou encore de compassion? L'intelligence du cœur n'est pas liée à notre niveau intellectuel, à nos connaissances, à notre culture, non. Elle est liée à ce que nous sommes fondamentalement, elle est liée à notre âme. Il ne tient qu'à nous de la cultiver chaque jour. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin pour parler à cœur ouvert, justement. Un seul numéro de téléphone si vous souhaitez prendre la parole ce soir, le 3921. Et je vous rassure, dès que le contact est établi, on vous rappelle, la communication est donc à nos frais. Si vous avez envie de participer par SMS, de réagir à ce qui se dit, de donner votre avis, d'apporter pourquoi pas une solution, une idée, vous faites le 739-21 suivi du mot nuit et de votre message. Et je partagerai à l'antenne tout ce qui sera constructif. Enfin, sachez que c'est Ilkay qui réalise ce soir notre émission.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et ma question du soir est la suivante. Quelles sont pour vous les qualités qui nourrissent notre intelligence du cœur? Alors si vous vous sentez une âme de philosophe, soit répondez-moi par SMS. 739-21 suivi du mot nuit et de votre message. Quelles sont les qualités qui nourrissent notre intelligence du cœur? A tout de suite. Et il est temps d'ouvrir cette libre antenne et je le fais avec l'appel de Géraldine. Bonsoir Géraldine. Allô?
Allô, oui, bonsoir.
Bonsoir Géraldine, soyez la bienvenue.
Merci de m'avoir contactée.
Alors, qu'est-ce qui vous amène ce soir?
Je voudrais parler de ce qui m'est arrivé. Mais nous sommes très très nombreux à avoir subi les mêmes choses. Oui. Les conséquences sont les mêmes, en fait. Voilà, nous sommes beaucoup de fonctionnaires en France, collectivités territoriales, fonctions publiques d'État, fonctions publiques hospitalières, à avoir été mis à l'écart juste pour avoir dénoncé des violences au travail. Voilà.
Ah.
Oui. Violences, harcèlement ou autres violences. Voilà.
Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous?
À moi, alors, ce qui m'est arrivé, donc, je suis fonctionnaire. J'étais en région parisienne. Là, je suis sur Pau. J'ai déménagé sur Pau. Alors, ce qui m'est arrivé, j'ai intégré la fonction publique sur concours externe il y a une vingtaine d'années. Mmh. J'ai toujours été un bon ingénieur. Mes dossiers de carrière étaient bons, voire très bons. Puis j'ai changé de métier. J'avais une double formation. Donc, j'ai changé de métier sur proposition du directeur. Je travaille dans un organisme de recherche, évidemment, que je ne citerai pas. Mmh. De toute façon, il y en a beaucoup d'organismes de recherche publics en France. Mais par précaution, je ne cite pas...
Bien sûr, et puis peu importe le nom, ce qui compte, c'est ce qui s'est passé.
On s'en fout, oui, c'est vrai. Voilà, mais c'est la fonction publique d'État. Voilà.
D'accord.
Donc, j'ai changé de métier au sein de la même unité, parce que j'avais une double formation au départ. Et j'avais été mise sur choix du directeur... directement sous sa responsabilité. Je ne suis pas allée dans le service en informatique où je travaillais, sur choix du directeur. Donc j'étais directement sous sa responsabilité et tout se passait très bien. Mais en parallèle, tout de suite, j'ai été violentée. Alors je ne savais pas que c'était du harcèlement. C'est bien après que je l'ai su. Violentée verbalement par... le responsable du service informatique dans lequel je n'étais pas, je pense que c'est par jalousie.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Quelles étaient ses motivations, d'après vous?
D'après moi, c'est de la jalousie de voir qu'un petit bout de femme qui n'était pas a priori de ce nouveau métier, alors que j'avais une double formation au départ, j'avais déjà travaillé dans le domaine, dans le secteur privé. Alors, je pense que c'est de la jalousie, une jalousie haineuse. Peut-être du machisme, je sais pas, j'en sais rien du tout. C'est un gars qui a à peu près mon âge.
Qu'est-ce qu'il vous disait, par exemple?
Alors, à plusieurs reprises, mais hélas, sans témoin, Il m'a dit, en mimant le geste de la fellation, tu as sucé, toi, tu as sucé.
Ah oui, charmant.
En parlant
oui.
du directeur, oui, oui. Voilà, mais bon, ça, c'est pas le plus grave. Pour moi, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave a été de me violenter devant des collègues informaticiens, donc qui n'étaient pas dans mon service, puisque moi, je dépendais du directeur. Il y a eu des témoins, heureusement, de violence. Et pendant des années, bon, ben, tout le monde savait dans mon unité qu'il y avait des violences.
Attendez,
que je souffrais.
Vous parlez là de violences toujours verbales ou il était passé à des violences physiques ?
Non, jamais. Jamais de violences physiques.
Toujours verbales.
Je tiens bien à le souligner. Hein.
Okay.
Ah ben, s'il y avait eu des violences physiques, j'aurais alerté beaucoup plus tôt la direction. De toute façon, c'est ce que j'aurais dû faire. Hein. Mm-hmm. D'entrée, j'aurais dû dire au directeur de mon unité, à partir de 2010, ce qu'il me disait. Bon, mais les paroles à connotation très sexuelle. Sont très difficiles à dire pour une femme de mon âge.
Bien sûr. Mais juste, comment vous avez réagi quand il a commencé ce genre de propos ?
Ben, j'étais terrorisée. Parce que ce gars fait 1m85. Mmh. Moi, je suis beaucoup plus petite. Je suis vraiment petite. Je suis un petit bout de femme. Je pesais pas lourd. Hein. Je pesais même pas 50 kilos en plus. Lui, il était grand. Il était responsable du service informatique. Et donc moi, ben, devant ces obscénités qu'il me disait à caractère... fortement sexuelle, eh ben je baissais la tête. Parce que, bon, je me disais, bon, enfin, je disais rien.
Et
puis je venais de changer de travail.
Ouais,
donc je voulais pas faire je voulais pas qu'il y ait de scandale.
C'est
donc,
pour ça, c'est pour ça que vous n'avez rien dit au patron non plus, j'imagine.
Ben, le patron, c'était mon chef. Donc j'allais pas lui dire, Xavier, je change de prénom, bien sûr. Hein.
Mmh.
J'allais pas lui dire, Xavier... Pierre m'a dit ça sur vous, enfin sur moi et vous. Donc moi, par discrétion, par pudeur, par peur aussi, bien sûr.
Ça se comprend d'ailleurs.
Honte, surtout de la honte, voilà. Donc je n'en ai pas parlé. Et puis, comme j'étais dans mon nouveau travail, je voulais absolument réussir. C'était pas gagné parce que moi, j'avais travaillé dans le domaine, mais plus de 10 ans avant. Donc il fallait que... Enfin, j'avais un travail difficile. Mais qui me passionnait. Hein. Je travaillais environ 10-15 heures par jour, le week-end compris.
Ah oui, effectivement.
Oui. J'avais acheté un ordinateur portable même pour travailler pendant mes vacances. Quand j'étais en arrêt maladie, quand je me blessais dans le sport, bah, je travaillais quand même. Enfin, j'ai toujours travaillé. Hein. J'avais mon club de sport et mon travail, voilà. J'avais la chance d'habiter à 10 minutes en voiture de mon unité, donc voilà, j'étais beaucoup, beaucoup au travail. Souvent jusqu'à 20h, 21h.
Mais j'entends que ça vous plaisait quand même.
Ah, j'étais passionnée et j'ai été très vite valorisée.
Mm-hmm.
Mon travail, j'ai changé de classe très vite, sur proposition du directeur. Très bien classée au niveau, première au niveau régional. Dans les 20% premiers, enfin 20 ou 30% premiers au niveau national.
Ou ça n'a pas dû plaire à tout le monde, ça ?
Non, justement, ça ne lui a surtout pas plu à lui.
Mais oui.
Ah, oh, il y a eu d'autres jalousies, hein. Bon, mais qui n'était pas informaticien. Bon, bah, ma foi, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein.
Mmh.
Donc, mais lui, ça ne lui a pas plu du tout, donc, d'où ses allusions sexuelles. Et puis, il me violentait devant des collègues de travail en disant que je n'avais rien à faire dans le domaine informatique, que mon travail c'était de la merde, que des trucs très violents, quoi. Alors que moi, je faisais tout pour réussir et je réussissais. C'est ça qui le mettait plus violent.
C'était ça le problème pour lui.
Voilà, c'était ça le problème. Et alors, pendant des années, pendant à peu près 5 ans, dès que je le voyais au fond du couloir, je faisais demi-tour, je baissais la tête. Alors, je vous dis ça parce que c'est très important, hein, parce que vous verrez après ce qui s'est passé.
Mm-hmm.
Je baissais la tête. Quand j'étais obligée de le croiser, je baissais la tête. Ou alors, quand je le voyais au loin, je faisais demi-tour. Quand je devais porter des papiers à ses collègues informaticiens, parce que je m'occupais de la section, d'une section sportive dans le cadre du CE, on va dire. Donc j'avais des chèques à donner au trésorier, et ce trésorier était dans son bureau. Ou même, quand je voulais simplement dire bonjour à mes collègues informaticiens, je m'assurais avant qu'ils n'étaient pas dans les parages.
Juste, Géraldine, juste pour comprendre l'ambiance, est-ce que pendant toutes ces années, vous avez réussi à vous faire des copains ou des copines sur place, au moins ? Est-ce que vous aviez des...
Dans le cadre du travail ?
Oui.
Bien sûr. J'ai organisé des galettes des rois, les repas de Noël... Dans ma structure, bien sûr que j'avais des copains. Je faisais du sport avec eux, il y en a qui venaient chez moi.
Mais à aucun moment vous n'avez parlé de ça, jamais.
Alors, le directeur, enfin, le directeur a été remplacé par un autre. Il savait, les deux directeurs savaient, non, le premier directeur ne l'a pas su, que j'avais des soucis avec lui. Mm-hmm. Parce que ce directeur est resté qu'un an et demi à peu près, hein, quand j'ai changé de travail. Il a été remplacé par un deuxième directeur. Ça s'est très très bien passé avec ce nouveau directeur. On faisait même du sport ensemble. Mmh. Pour vous dire que tout se passait très bien. Enfin, tout se passait très bien. J'avais pas que des amis, bien sûr. Mais beaucoup de collègues sont venus le jour de ma crémaillère, quand j'ai acheté mon appartement en région parisienne. En même temps, je fêtais mes 50 ans. Je fêtais aussi ma promotion. Voilà. Donc, chez moi, il y avait beaucoup de collègues, des hauts, plus qu'ingénieurs, hein, des chercheurs, des directeurs de recherche. Bon, il y avait des techniciens, des ingénieurs. Voilà, on était une vingtaine, tapis rouge, champagne. Tout s'est très bien passé. Ça, c'était en 2014.
Mais personne ne savait ?
Alors, si, mes collègues proches, très proches, savaient bien sûr. Ils ont témoigné après.
Ah, d'accord.
Bien sûr, après. Alors, il y a eu les témoins directs des violences. Et il y a eu les témoins indirects, directs de souffrance. Mmh. Voilà, il faut séparer les choses.
Bien sûr.
J'ai des témoins directs de mes souffrances, parce que je pleurais. Hein. Je pleurais, j'étais terrorisée par ces gars. Eux, ils ont témoigné après. Mais leur témoignage n'a servi à rien. L'administration les a déchirés, puisqu'ils n'étaient pas témoins directs de violence.
Voilà. Mais là, vous parlez de 5 ans plus tard, ça veut dire que ça a duré pendant combien de temps, sœur?
Ça a duré 8 ans, parce qu'au bout de 5 ans, mon entité a fusionné avec une autre. Et on m'avait promis de ne jamais me mettre dans le service de ce gars. Enfin, les deux candidats à la direction du nouveau labo, parce qu'on allait fusionner donc, hein, avec un autre, mm-hmm. ils m'avaient promis, tant qu'ils étaient candidats, hein, à la nouvelle direction, eh ben, qu'on ne me mettrait jamais dans son service. Surtout que mon travail n'avait rien à voir avec le travail des autres informaticiens. Et alors ensuite, j'ai su, à la grande colère de beaucoup de collègues en Assemblée Générale, que 6 mois après, j'allais être dans son service et sous sa responsabilité.
Oh là là.
Enfin, j'avais compris que j'allais être sous sa responsabilité, puisque aucun autre ingénieur ne voulait être responsable de ce service, parce qu'il y avait déjà beaucoup de problèmes dans le service. Mmh. Il y avait deux ingénieurs qui avaient quitté le laboratoire à cause de ce gars-là. Voilà. En partie, hein, à cause de lui. On avait dû les séparer, lui et un autre ingénieur, parce qu'ils allaient se battre. Enfin bon, il y avait eu des histoires dans ce service déjà. Hein.
Dites-moi juste pour que je l'imagine un peu mieux, c'est un type qui avait quel âge à ce moment-là ?
Mon âge, on avait entre tous les deux, entre 45, entre 48 et... Attendez.
Non, d'accord, la cinquantaine, quoi, d'accord.
Oui, on avait tous les deux, avait le même âge. Okay. Un an près, oui. Eh ben, c'est un gars qui était très gentil avec moi tant que j'étais dans l'autre métier, dans mon premier métier. J'avais de bons rapports avec lui, sans plus, on ne se voyait pas beaucoup, c'était dans un autre bâtiment. Mais j'avais jamais eu de problème avec lui tant que je n'avais pas changé de métier et devenir ingénieur en informatique. Mmh. Et c'est à partir de là qu'il a été violent, mais c'était simplement la jalousie, parce que mon travail était valorisé et pas le sien. Enfin, c'est mon interprétation à moi. Hein.
Alors juste, je me posais une question qui va peut-être vous paraître bizarre, mais est-ce que, secrètement, vous ne lui plaisiez pas ? Est-ce que ça n'était pas aussi une sorte de vengeance ? Ça n'a rien à voir avec la taille. Hein.
Non, je ne pense pas. C'est un gars qui était en couple avec des enfants, donc...
Ça n'empêche pas non plus. Hein.
Oui, alors par contre, toutes les conversations qu'il avait se portaient sur le sexe, oui. En bas de la ceinture, quoi.
Quelquefois, quand on développe une haine envers quelqu'un comme ça, c'est qu'il y a une frustration amoureuse aussi.
Bon, il ne me l'a jamais dit qu'il était amoureux de moi, en tout cas. Il me l'a, je ne pense pas, non. Enfin, bref. Et voilà. Donc, j'ai été dans son service de force, sous contrainte, malgré des arrêts maladie de mon généraliste, parce que j'étais en souffrance terrible à l'idée que je serais de force dans son service. Bah,
évidemment, oui. C'est une torture
et
quotidienne.
Et sous sa responsabilité directe. Mmh. Alors, donc, on a fusionné administrativement, pas géographiquement encore. Hein. On a fusionné, j'ai été dans son service sous sa responsabilité, je sortais d'un arrêt maladie de 40 jours à peu près, pour dépression, enfin dépression pour parce que j'étais très mal. Hein.
Bien sûr.
Oui. Et donc ça s'est calmé environ pendant 18 mois. C'était mon chef, mais il n'en avait rien à faire de mon travail. De toute façon, mon travail n'avait pas changé. Je travaillais toujours avec la direction. Voilà.
Mais alors justement, je connais pas trop la hiérarchie de cette boîte, mais est-ce qu'il y avait pas quelqu'un au-dessus de lui à qui vous auriez pu parler ?
Si, mais N plus 2.
Et alors ?
Ben vous allez voir.
Ah.
J'ai travaillé avec ma N plus 2. Il y avait ma N plus 2, la secrétaire générale, Sylvie. Et au-dessus, il y avait le directeur.
Mm-hmm.
Le nouveau directeur, donc. C'était une nouvelle direction, donc à partir de 2016. Et donc, ma N plus 2, Sylvie, il m'avait mis de force dans son service, donc je voulais pas trop parler de ça. Hein. Déjà, il y a eu des gros soucis en 2015-2016 quand j'avais su que j'allais être dans son service. Bon, donc on a fusionné avec l'autre entité. Ça s'est calmé pendant 18 mois à peu près. Donc c'était mon responsable. Il voulait rien savoir de mon travail, absolument rien. Et on se parlait gentiment quand même. Hein. Pendant 18 mois à peu près, on se parlait gentiment, mais surtout pas de travail. Il voulait rien entendre sur mon travail.
Est-ce qu'il y avait encore des réflexions inappropriées ?
Oui. Par exemple, quand je parlais à mes collègues informaticiens, donc là, du même service. Là, on était tous dans le même service. Que, par exemple, j'avais fait du sport avec tel... dans mon club, ou avec tel homme ou telle femme. Je faisais de la course à pied. Hein. J'ai fait des marathons, j'étais dans un club d'athlétisme. Eh bien, par exemple, quand je disais à mes collègues, alors qu'ils n'étaient pas dans le bureau, hein, je suis allée courir avec Pierre-Paul Jacques, n'importe qui, lui, il rentrait dans le bureau pour écouter tout ce que je disais, et il me disait, qu'est-ce que tu as fait dans les taillis avec Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Ou alors, je lui disais par exemple que j'avais changé ma télé chez Darty, je vous dis n'importe quoi là, et bien, et qu'est-ce que tu as fait avec le vendeur dans l'arrière-boutique, voilà. Toutes les discussions que j'avais eues, que j'avais avec lui,
ça tournait,
avec mon propre chef,
ouais, c'est ça.
C'était en dessous de la ceinture.
Et là, vous ne répondiez toujours pas ?
Non, sauf une fois. Une fois, devant un collègue, je lui dis, maintenant ça suffit. Chaque fois qu'on discute, tu en arrives toujours à parler en dessous de la ceinture, quoi. Là, ça l'avait choqué, mais bon, la discussion avait été close, voilà. Et ensuite, il a recommencé ses violences, devant témoins, heureusement. Mon travail avait été en démonstration dans une autre unité en France, en province, par ma propre direction. Mon travail, les logiciels que je développais, ils étaient en démo, ils ont été en démonstration à l'extérieur.
Mmh.
Et 10 jours après cette démonstration, début novembre 2018, il m'a reviolenté, en plus j'étais malade, hein. J'étais très malade à ce moment-là, mais j'avais tellement de travail que je venais quand même au travail. Mmh. Il m'a reviolenté devant 2 collègues, j'étais tellement malade que j'ai rien pu dire.
Ça c'est surprenant quand même, qu'il ait même pas peur qu'il ait témoin.
Ben il était chef.
Oui, mais enfin c'est un jeu dangereux quand même. Hein.
C'est dangereux, oui, mais ça n'a pas... Vous savez, les témoignages de mes collègues n'en servaient à rien. Oui. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, il m'a reviolenté début décembre 2018 devant un ingénieur et un technicien. Je discutais dans le bureau des deux, là, enfin, de l'ingénieur et du technicien. Lui, il est rentré dans le bureau, il m'a reviolenté. Alors que j'étais vraiment très malade, tout le monde me demandait de rester en arrêt maladie.
Mmh.
J'avais une coqueluche grave avec fracture des côtes, déchirement thoracique, aérosol électrique matin et soir, sous corticoïdes, antibiotiques. Voilà, donc malgré
Et vous alliez bosser avec ça ?
Oui, j'avais une ceinture thoracique. Oui.
Pourquoi ?
Parce que la direction il venait juste de mettre en démo mon travail en province, devant plusieurs directeurs. Et ensuite, je devais mettre un autre logiciel en production en janvier 2017. Là-bas où j'en suis là. En janvier 2000. Je me suis trompée tout à l'heure, hein. C'est 2017. Hein. Donc voilà, on est en décembre 2017 quand il a recommencé ses violences. Et je devais mettre en production un autre logiciel, donc à la portée de tous les agents de mon laboratoire, je devais mettre un autre outil de gestion en production.
Mais donc vous n'avez pas écouté votre corps et vous y êtes allé quand même ?
J'y allais quand même, j'y allais quand même. Le médecin m'a arrêté 2 jours, parce que je voulais pas plus, donc j'allais au travail 3 jours, et puis après il m'a réarrêté une semaine, et Et en fait, j'avais énormément de travail, donc j'y allais quand même, oui.
Alors,
et à l'époque, on n'avait pas le jour de carence.
Comment ça a évolué tout ça ?
Alors ça a évolué que, donc après ces violences de début décembre 2017, les deux témoins, enfin un des deux témoins, l'ingénieur, il a remonté immédiatement les violences à la N+2, que j'ai appelée tout à l'heure Sylvie, je crois. Donc, la N+2 n'a rien dit, alors que je travaillais tous les jours avec elle. Hein. On travaillait ensemble sur les projets. C'était le maître d'ouvrage et moi, j'étais le maître d'œuvre. Le responsable du projet technique. Moi, j'étais responsable technique des projets et elle était maître d'ouvrage. Voilà, enfin, le client, si vous voulez.
Donc, qu'est-ce que vous espériez d'elle à ce moment-là?
Moi, j'aurais aimé qu'elle m'en parle. Alors, il paraît qu'avec. Comment je l'appelais tout à l'heure, mon agresseur hein Je ne sais plus comment je l'appelais. Enfin, peu importe.
Oui, c'est d'être ça.
Parce que là, je change les prénoms, donc c'est quand même assez difficile. Hein. De toute façon, on me reconnaîtra à l'antenne, mais je m'en fous tant que je ne dis pas les noms. Eh bien, moi, j'aurais aimé que. Alors, comme ma N+2, je la voyais. Au moins une fois par semaine pour les réunions, j'aurais aimé qu'elle me dise alors il t'a reviolenté ou rien du tout, rien. Bon, et ensuite il a recommencé ses violences en février 2018, donc on est bien en 2018, voilà, c'est ça. Il a recommencé, mais là il n'y avait pas de témoin, hélas. Pendant mon entretien de carrière, pendant 50 minutes, j'ai subi des violences verbales, des moqueries, des humiliations, que mon travail c'était de la merde, alors que 2 mois avant, mon travail avait été en démo en province devant plusieurs directeurs d'unité. Hein.
Mais pardon Géraldine, mais il y a un truc que je ne comprends pas.
Oui.
Autant je peux comprendre qu'au début, quand vous veniez d'arriver, vous aviez peur de faire des vagues et vous avez tout gardé, mais là au bout de 5, 6, 7, 8 ans, pourquoi vous avez continué à, j'allais dire pour être poli, à fermer votre bouche quoi?
Attendez, après, oui, après j'ai parlé.
Mais ça fait 7 ans déjà.
J'avais dénoncé déjà les violences en 2015-2016, pendant 6 mois, quand j'ai su que j'allais être dans son service. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. J'ai envoyé des mails à la médecine du travail, au RH, à la délégation régionale, au RH. Ça, c'était en 2015-2016, hein, avant la fusion des deux labos. J'avais alerté tout le monde, médecine du travail, direction, RH.
Et personne n'a bougé.
Quand même de force. Comment ?
Personne n'a bougé.
Non, l'administration n'a rien fait. On m'a au contraire mis dans son service, de force. Mais attendez, c'est pas le pire. Hein. Il y a eu pire après. Donc déjà, j'avais alerté dans des dizaines de mails. Mais comme personne ne bougeait, j'envoyais des mails. Mais je n'avais pas dépassé la délégation régionale. Je n'étais pas encore allée jusqu'au siège. Voilà. Notre employeur, c'est la délégation régionale, donc le RH, le responsable des ressources humaines. Rien, ils n'ont pas branché, ils m'avaient quand même mis dans son service. Donc on ne peut pas dire que je n'avais pas alerté. J'avais alerté pendant 6 mois, avec 2 arrêts maladie quand même. Hein, aussi,
d'accord.
Hein.
Okay.
Donc après, on se projette 3 ans après, en 2018. Donc quand il a recommencé ses violences fin 2017 et début 2018, là j'en pouvais plus. J'ai à nouveau dénoncé. J'ai alerté la délégation régionale, donc j'ai été convoquée en avril 2018. Et là, ça a été l'enfer. Complètement l'enfer.
Vous avez été convoquée par qui? Dans quelles conditions?
Par le service de ressources humaines de notre délégation.
Convoquée seule ou avec lui?
Non, toute seule.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont demandé?
Alors, je me suis retrouvée devant 2 femmes que je ne connaissais pas, qui avaient l'air très très gentilles. Donc je me suis confiée et j'ai tout raconté. Et et seulement après, le compte-rendu a été déformé. Ils ont dit dans le compte-rendu que j'avais dit plusieurs fois que j'avais... Ils ont écrit dans le compte-rendu de cette audition d'avril 2018... Moi, je ne savais pas, mais j'étais tombée dans un piège. Je ne savais pas que j'allais gicler, hein, quelques mois après. Ils ont écrit que j'avais dit plusieurs fois que j'ai voulu me foutre en l'air plusieurs fois. Or, je n'ai jamais été suicidaire. Très important pour la suite, hein, ce que je vais vous dire, ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai jamais été suicidaire de ma vie. Et surtout, je n'ai jamais dit ça lors de mon audition en avril 2018.
Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ces deux femmes avaient une intention malveillante?
Disons que j'avais pas compris. Moi, j'étais très naïve. Hein. Je suis quelqu'un de très naïf, qui fait confiance. En plus, c'était la première fois que j'étais écoutée dans cette histoire. C'était en dehors de mon labo, c'était à la délégation régionale, et c'était 2 femmes. Donc je me suis dit, super, on va t'écouter. Donc j'ai su, mais bien après, 3 mois après, que le compte-rendu a été déformé. Donc je n'ai jamais voulu le signer, bien sûr. J'allais pas signer des horreurs, voilà. Bon, ils ont tout mélangé, les dates, les événements, enfin bon. Donc on m'a donné l'autorisation de faire des corrections, Et une fois que j'avais bien corrigé, et j'avais passé la nuit à tout corriger, eh ben ils n'ont jamais accepté ma version à moi. Voilà. Parce que j'avais enlevé ce passage suicidaire, j'ai jamais été suicidaire. Si j'avais été suicidaire, ça fait longtemps que je me serais foutu en l'air avec ce qui m'arrive. Et alors, donc après, il y a eu la guerre des mails. Lui disait que c'était pas vrai. Bon, la guerre des mails, comme en 2015-2016. Il a nié évidemment tous les faits, malgré les témoignages de mes collègues.
Mais là, on parle de témoignages, mais la justice n'est en aucun cas appelée, là, pour l'instant. Ça reste de l'interne.
Au niveau administration, la justice est après.
Alors, je vais vous demander d'aller un petit peu droit au but, s'il vous plaît, Géraldine, parce que ça devient très très long, là.
Oui.
Il y a beaucoup de détails dans votre histoire.
Lui. J'ai porté plainte contre lui en gendarmerie. 5 heures d'audition, et le gendarme...
Alors, justement, enfin, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui vous a donné l'élan pour aller le faire, enfin, ça?
Parce que les rares mails que j'avais en réponse de ma hiérarchie, c'était « Tais-toi, on lit même pas tes mails ». Voilà.
Ok, donc là, vous avez compris qu'il fallait taper plus fort.
J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus.
Donc, vous allez porter plainte?
Donc, j'ai porté plainte en gendarmerie, 5 heures, ça a duré de 14h à 19h, et c'est le gendarme lui-même... qui en a conclu à harcèlement moral au travail de 2010 à 2018 et harcèlement sexuel. Alors par contre, c'était de 2010 à 2015.
Les dates, vous savez, pour nous, Géraldine, c'est pas très intéressant.
Oui, d'accord.
On va pas réussir à les mémoriser, on se perd un petit peu dans le récit.
Alors, j'ai porté plainte et ça s'est retourné contre moi tout de suite après.
D'accord.
Ils ont saisi le comité médical, dans mon dos, bien sûr, voilà. Ils ont saisi le comité médical. Alors, on a déménagé physiquement après sur un nouveau site. Ils m'ont placé dans... Donc, tout de suite après mon dépôt de plainte, hein, ils m'ont mis dans un tout petit bureau avec un collègue handicapé mental, mais bon, très gentil. Hein, oui. Il m'embêtait pas du tout, mais je pouvais pas discuter avec lui.
Donc, vengeance, quoi.
Dans un vacarme pas possible de claquement de porte. Et à 3-4 mètres en face de celui contre qui je venais tout juste de porter plainte pour harcèlement moral et harcèlement sexuel. Mes collègues chercheurs ont tapé du poing sur la table, en réunion élus, les élus chercheurs, là, en demandant à la direction qu'on me change de bureau, parce qu'il y avait des bureaux vides. Hein. Le labo fait 18 000 mètres carrés habitables.
Non, mais on a bien compris que c'était de la vengeance.
Ah non, mais ils ont tout fait pour me... Voilà. Ma N plus 2 est passée ma N plus 1, parce que le gars, on lui a enlevé on l'a dessaisi de sa fonction de responsable, juste après mon dépôt de plainte.
Ah, quand même. Okay.
Ah oui, oui, oui.
Ah, bah c'est important,
du jour
ça.
Au lendemain, il est devenu petit ingénieur comme moi. Hein. Oui, oui. Et donc, ça a été un autre qui l'a remplacé. Et donc, déjà, c'était pour moi une preuve qu'il reconnaissait au moins, qu'il me croyait au moins. Et donc, du coup, donc on a déménagé, donc ça a été l'enfer. Ils m'ont fait convoquer à une première expertise psychiatrique. Le médecin m'a déclaré tout à fait apte au travail. Mais angoissé, bien sûr, angoissé. Quand on porte plainte contre son chef, on est forcément angoissé.
Bien
hein.
sûr.
Voilà. Mais en parallèle, je subissais des violences et du harcèlement de ma N plus 2 qui était devenue ma N plus 1.
Ah, elle aussi.
Voilà. Moi, je ne comprenais pas, mais c'est après que j'ai compris. Une fois qu'ils m'ont viré en congé longue maladie d'office. Parce que c'était pour se protéger, eux. Ils m'ont fait passer pour dingue. Voilà. Alors que je n'avais aucun passé psychiatrique. Je n'avais jamais été hospitalisée, je ne savais pas ce que c'était les psychiatres. J'avais toujours eu des dossiers, de très bons dossiers.
Mais comment ils ont fait? On ne peut pas mettre quelqu'un en congé longue maladie de force comme ça.
Si. Il suffit de... Alors, on m'a donc fait expertiser en début novembre 2018. Voilà, c'est ça. J'ai été déclarée tout à fait apte au travail. Et le jour même de la réunion du comité médical, j'étais déjà convoquée, une semaine après, chez un autre expert. Voilà, en 30 jours d'intervalle, j'ai eu droit à deux convocations.
Et le deuxième a dit quoi, là?
Alors, le deuxième, en 25 minutes, a diagnostiqué en 25 minutes une maladie qui se diagnostique sur plusieurs années. Hein. Je vous le dis, bipolaire, très grave et non traité, 4 pages de symptômes, un diagnostic complètement dingue. Donc, j'ai du jour au lendemain, je travaillais un jour et j'ai reçu un mail comme quoi j'étais en congé longue maladie d'office depuis le matin, alors que j'avais travaillé toute la journée. Donc, mais j'étais en télétravail, là. Donc, du coup, on m'a même pas proposé d'aller chercher mes affaires personnelles. Voilà. Et c'est là que, quand j'ai eu mon dossier administratif et mon dossier médical, j'ai eu le compte-rendu médical, ça a été une horreur. J'ai eu pas mal de témoignages de collègues. Alors, directeur de recherche, directeur de département scientifique.
Oui, peu importe, là encore Géraldine, ça fait beaucoup de détails. Pourquoi vous n'avez pas demandé une contre-expertise ?
Ils n'ont pas voulu. J'ai téléphoné au service qui s'occupe de ça. On m'a hurlé dans les oreilles que non, il n'y aura pas de troisième expertise. Voilà. Donc, c'était affreux. Donc, je me suis retrouvée chez moi, enfermée, du jour au lendemain, alors que je travaillais 12 heures par jour à peu près, en souffrant. Hein, j'ai souffert. Hein, les 8 derniers mois au travail, j'ai énormément souffert. En fait, j'étais en souffrance au travail, mais j'arrivais à travailler autant que possible pour... Je savais que j'étais en danger. Parce que quand vous avez une première expertise psychiatrique, alors que vous n'avez pas de problème psychiatrique, déjà, vous trouvez ça bizarre. Ensuite, on vous reconvoque à une deuxième expertise. Là, vous avez compris que vous allez sauter. Voilà. Et donc je me suis retrouvée en congé longue maladie d'office.
Oui.
Pour récupérer mes affaires personnelles, c'est mes collègues proches. Ils avaient tous les larmes aux yeux. Hein. On s'est cachés dans le troisième sous-sol du parking. Je me suis cachée dans ma propre voiture pendant qu'un collègue... on m'a rendu mes affaires dans des sacs plastiques. Des collègues très proches qui pleuraient. Hein. Oui, j'en ai vu pleurer. Et là, j'ai eu mes 6 premiers mois de congé longue maladie d'office. Donc, je suis allée vite voir un psychiatre. Mmh. Psychologue, psychiatre. J'ai eu 4 attestations d'aptitude totale au travail. Oui. Aucune pathologie psychiatrique décelée.
D'accord, vous avez fait quoi avec ça alors ?
Eh bien, j'ai fait du bénévolat.
Non, mais avec les preuves d'autres psys que vous étiez aptes.
Eh bien, ça n'a rien servi parce qu'ils m'ont fait réexpertiser au bout de 6 mois. Et là, l'expert a dit devant une copine qui était témoin que mon organisme ne me voulait plus. Parce que mon premier avocat avait déjà attaqué au tribunal pour annuler immédiatement le CLM d'office. Mais ils ont fait exprès de ne pas répondre. Donc, entre-temps, ils m'ont fait réexpertiser à l'issue des 6 premiers mois de CLM d'office. Et là, l'expert dit devant témoin, qui a témoigné par écrit, que mon administration ne me voulait plus, que mon affaire avait fait grand bruit jusqu'au siège, que les témoignages de mes collègues avaient foutu le bordel, quoi, en gros. Mmh. Et voilà, donc j'ai repris 6 mois de CLM d'office. Là, au bout d'un an, j'ai compris que je ne pouvais plus travailler. Surtout que l'expert m'avait dit, si vous revenez au travail, on va vous virer.
Alors tout ça pour en arriver où, là, Géraldine, aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, maintenant, les médecins essayent de me protéger. Donc, grâce à mon avocat qui a assisté à plusieurs expertises psychiatriques, les dernières, là, tout d'un coup, je n'ai plus cette maladie très grave et non traitée. J'étais simplement en souffrance et dépressive. Mm-hmm. Parce que la maladie très grave et non traitée, elle n'est pas imputable au service. Ça relève de la psychose. Et là, je demande l'imputabilité au service de tout l'ancien
dépressif. Ah d'accord, oui. D'après vous, ils se sont dégagés de toute responsabilité parce que la pathologie aurait été là avant.
Voilà, c'est ça. Voilà. Non, oui,
si vous aviez
ça.
Été bipolaire, c'était pas à cause... Pour résumer, si vous aviez été bipolaire, c'était pas à cause d'eux, alors que dépressif, c'est à cause d'eux.
Voilà, c'est ça. Et l'expert mandaté par mon administration pour cette histoire d'imputabilité a demandé l'imputabilité au service, exclusive, avec un taux d'IPP d'au moins 25%. Ça, c'est pour la rente, après, j'en sais rien. Et elle dit noir sur blanc que je ne suis pas bipolaire. Des psychiatres attestent que je ne suis pas bipolaire.
Je n'ai eu aucune manière donc, Géraldine, avancez, s'il vous plaît, pour en arriver où, là, aujourd'hui, avec tout ça
Voilà, je voulais témoigner. Nous sommes beaucoup, beaucoup dans...
Ah, ça, c'est tout. Il n'y a pas eu de... Vous en êtes où, alors, au niveau du...
Alors, maintenant, pour me protéger, moi, je ne veux plus retravailler. C'est terminé.
Ah, voilà, c'était ça, ma question. Vous en êtes là, maintenant.
Ah ben, où j'en suis, j'ai vendu mon appartement que je venais d'acheter là en 2014. Je l'ai vendu, je suis allée sur Pau, me réfugier auprès de ma famille. Voilà, donc je suis au soleil, enfin dans le sud, j'ai ma famille à côté, la montagne n'est pas loin, je préfère du ski d'hiver. Je me reconstruis petit à petit,
d'accord.
Je vois une psychologue toutes les semaines,
okay.
Mais je partage la souffrance de tous mes collègues qui sont dans le même état que moi.
Mmh.
J'ai même un copain handicapé moteur en fauteuil roulant qui a été harcelé pendant 11 ans. Et qui se retrouve comme moi, hein. On est tous au tribunal. Hein. On est tous au tribunal, il y a eu des suicides. Hélas. Et ça, on le découvre quand on est membre des groupes Facebook de violence au travail, fonction publique. Je suis membre, évidemment, de ces groupes-là.
Ouais,
mon dossier a été suivi de près par Madame Jouan, présidente de l'association fonctionnaires victimes. Elle était commandante de police, elle est à la retraite. Elle a pris mon dossier, voilà. Donc j'ai un deuxième avocat. Voilà, c'est au tribunal et je compte porter plainte contre mon administration cette fois.
Ok.
Voilà.
Bon, ben vous avez bien fait de venir nous raconter tout ça, Géraldine. C'est vrai que vous n'êtes sûrement pas la seule dans cette situation.
Oui, c'est très grave.
Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout un jour d'arriver à tourner la page et d'avancer maintenant sans tout ça.
De vous reconstruire. Oui, j'essaye de la tourner. Ici, moi, je suis très bien. J'ai ma famille. Je fais du bénévolat. Voilà, je prends même plus d'antidépresseurs. Ça va bien, mais je ne reviendrai pas dans cette administration. De toute façon, ils ne veulent plus. Et moi, je vais attendre la retraite anticipée d'office. Je l'attends avec impatience. Comme ça, je pourrai au moins retravailler un jour. Parce que je n'ai même pas le droit de donner un cours de mathématiques par semaine ou par mois. On m'empêche de travailler. Voilà. On m'empêche de travailler. Et si je reprenais mon travail dans mon administration, ils me vireraient. C'est ce que m'avait dit l'expert.
Eh bien, sacrée histoire, hein, Géraldine.
C'est très compliqué. Excusez-moi pour tous les détails, mais j'ai tendance à...
Non, mais on sent que vous avez été bouleversée par tout ça et que malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens chez qui ça doit résonner, votre parcours.
Mais toutes les victimes de la fonction publique, des trois fonctions publiques, si elles m'écoutent, ces victimes, eh bien, il faudra qu'un jour on se réunisse, qu'on médiatise. Il y a eu des gens qui ont médiatisé leur histoire, déjà. Par des bouquins, par des enregistrements aux antennes, là, enfin sur YouTube.
Est-ce que vous voulez donner une page Facebook, par exemple, où on peut vous retrouver ? Ou un groupe ?
Je n'ai pas compris.
Est-ce que vous souhaitez donner les coordonnées à l'antenne d'un groupe ou d'une page Facebook où on peut vous retrouver, pour ceux que ça intéresse ?
Attention, parce que j'ai très peur que mon administration m'ait reconnue demande, je préfère pas, non, je refuse.
Ok, ben on va s'arrêter là.
Parce que mon histoire, j'ai donné suffisamment de détails, malgré les changements de nom, et si des gens de mon laboratoire m'ont entendu, ou le siège, ou n'importe qui, ils vont me reconnaître, bien sûr.
D'accord, ben on va pas aller plus loin.
Donc il faudrait pas qu'après, non, je ne donne pas l'autorisation de donner mes coordonnées.
D'accord.
Voilà, sauf si c'est le Parisien ou...
Merci de votre témoignage, Géraldine.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Tant mieux.
Voilà, mais j'irai de mieux en mieux. Et je vais de mieux en mieux, de toute façon.
Je vous le souhaite. Au revoir, Géraldine.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous.
Laissez votre message à Sabine Marin au 7 39 21. 75 centimes, plus coût du SMS.
Et c'est maintenant Romain que je prends sur notre libre antenne. Bonsoir Romain.
Bonsoir.
Soyez bienvenue vous aussi.
Bonsoir. Allô, je vous entends très très mal, je suis désolé.
Je vous disais soyez le bienvenu vous aussi.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène Romain?
Alors moi j'avais contacté Europe 1 et votre émission parce que j'aurais voulu un peu faire... avoir un petit rôle de lanceur d'alerte, surtout vis-à-vis de ma situation, voir si je pouvais avoir des conseils, de l'aide, et puis surtout alerter, parce que je me retrouve dans une situation très compliquée, face à laquelle je ne m'attendais pas du tout.
Racontez-moi.
Alors, c'est peut-être... Je vais quand même vous détailler un petit peu mon histoire, c'est peut-être un peu long, mais... En gros, si vous voulez, j'ai eu un enfant avec mon ex-compagne avec qui je suis restée pendant 7 ans.
Mm-hmm.
Voilà. Avec qui je suis séparée depuis maintenant un peu plus de 2 ans.
À la suite de quoi ?
Alors, la séparation s'est faite parce qu'on ne s'entendait plus du tout et la violence avait envahi particulièrement notre foyer, notre vie. Quand je parle de violence, c'est surtout beaucoup de violence verbale, beaucoup d'humiliation, beaucoup de harcèlement de la part de mon ex-compagne. Et au final, moi, ce qui m'a fait acter la séparation, c'est qu'elle m'a frappé. Donc, elle m'a cédé 4 coups de poing devant mon meilleur ami.
Est-ce que c'était un comportement que vous aviez décelé chez elle un petit peu, ou vous aviez des doutes, ou ça vous est tombé dessus vraiment d'un seul coup ?
Le fait qu'elle me porte des coups, oui, c'était. Enfin, je pensais pas qu'un jour elle puisse le faire, même si c'est quelqu'un de qui a un caractère, voilà, qui a un très très fort caractère.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous aviez quand même décelé qu'elle avait un caractère particulier.
C'est quelqu'un qui il y a un tempérament très fort, qui est toujours qui s'énerve vite. Voilà, c'est ce genre de tempérament. À l'inverse de moi, qui suis très très calme. Et voilà, qui a toujours été très excité pour n'importe quelle chose.
Et avec votre enfant ?
Avec mon fils, elle était pas violente. Ah. Il était petit, quand on s'est séparé, il avait 4 ans. Il a toujours eu beaucoup d'amour, elle n'était pas violente. Après, c'est quelqu'un que j'ai. Quand je l'ai rencontré, qui avait 2 enfants. De 2 autres unions différentes, chose que je ne savais pas au début quand je l'ai rencontrée, puisqu'elle m'avait menti sur son âge et sur sa vie. Elle me disait qu'elle avait 10 ans de moins.
Ah oui.
Donc elle avait mon âge, en fait.
Elle a mis combien de temps avant de cracher le morceau ?
C'est moi qui l'ai découvert un jour quand on était chez ma mère, au bout de plusieurs mois de relation. Je suis tombé sur sa pièce d'identité qui était sur mon lit. Et quand j'ai vu que la date de naissance était de 1982 et que moi je suis de 90... J'ai compris que c'était pas possible qu'elle ait mon âge.
Et comment elle a justifié ça ?
Elle m'a expliqué qu'elle avait eu peur que je m'intéresse pas à elle, ou en tout cas que je n'aille pas construire quelque chose de sérieux, ou que j'ai peur.
Et les enfants, vous avez appris ça comment ?
C'est des photos qu'il pouvait y avoir chez elle. Il y avait 2 photos, elle me disait que c'était ses neveux. Et donc moi j'étais à ce moment-là, je finissais mes études d'infirmier et j'étais en colocation, j'en parlais beaucoup avec mon meilleur ami, et donc là c'était beaucoup de questionnements quand on en discutait. Vu qu'elle m'avait menti sur son âge, il me disait s'il faut elle a des enfants, s'il faut elle est mariée.
Oui, puis et ça donc, vous a pas fait... inquiété de commencer une relation avec quelqu'un qui ment comme ça?
Mes amis, ça les a alertés. Moi moins, parce que on va dire que j'étais très amoureux, et donc je pense que quand on est très amoureux, surtout très jeune, comme je l'étais, j'avais 21 ans,
on
avance un peu dans la vie avec des œillères.
On dit que l'amour est aveugle, oui.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc moi, il y a des choses que j'ai pas vues, et tous mes amis m'ont dit attention et tout, parce qu'à un moment donné, moi, quand elle m'a dit qu'elle avait une maison, qu'elle avait des enfants, je lui ai dit, surtout qu'elle les avait pas avec elle les avait confiés à sa mère, à elle. Et moi, j'avais dit, si tu as des enfants, en fait, si on doit construire quelque chose au bout de plusieurs mois de relation, j'avais dit, en fait, ce sera avec tes enfants. Donc, du coup, nous avions pris une maison, nous avions récupéré ses enfants. Et
ça allait avec eux ?
Et c'est là que... Oui, ça allait très, très bien. Ouais. Ça allait très, très, très bien. Ça a été très fusionnel, surtout avec son fils aîné, qui avait de gros problèmes. Il avait été diagnostiqué autiste. Il avait des troubles envahissants du développement. Donc je l'ai pris sous mon aile. Moi, c'est l'enfance, tout ce qui est en rapport avec la pédopsychologie ou la pédopsychiatrie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai travaillé mes premières expériences en tant qu'infirmier pendant presque 4 ans. J'ai travaillé en pédopsie et en service de psychiatrie pour adultes. J'avais fait mon mémoire sur la pédopsychiatrie aussi.
Oui, donc elle a eu beaucoup de chance. On ne peut même pas dire qu'elle a commencé à s'énerver à ce moment-là, puisque ça se passait bien.
Non, ça allait. Ça allait à ce moment-là. Il y avait quand même des comportements excessifs, surtout au niveau de la jalousie, de la possessivité. Mais c'était pas encore là-dessus.
Ça ne dépassait pas les limites, quoi.
Non. Ce n'était pas non plus autant alertant que ce que mes amis pouvaient me dire ou ce genre de choses-là.
Alors Romain, je suis désolée, il va être minuit, oui. Si vous permettez, ça va être l'heure des infos.
D'accord.
Donc on marque une courte pause, vous ne bougez pas.
Ça marche.
Et on reprend notre conversation juste après les informations.
Merci.
Merci à vous, à tout de suite.
À tout à l'heure.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, on se retrouve pour la deuxième partie de cette libre antenne. Vous le savez, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin sur Europe 1. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler tout au long de l'émission si vous avez envie de parler, de prendre la parole. Ce soir, un seul numéro de téléphone, 39 21. Fanny et Théo sont au standard, ils attendent vos appels et vous guideront jusqu'à moi. 39 21 donc pour le numéro de téléphone. Pour les SMS, 7 39 21. suivi du mot nuit et de votre message. Et puis bien sûr notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et ma question du soir tout à l'heure était, quelles sont pour vous les qualités qui nourrissent notre intelligence du cœur? Et je vais partager avec vous les réponses qui me sont arrivées. Alors, pour Théodora, la sincérité, la gentillesse et l'intégrité. Pour Louis, la bonté et la joie. Et pour Jonathan, l'honnêteté et la gentillesse sont importantes. Et enfin, Tony me dit aussi, la sympathie et le rire, c'est important pour nourrir notre intelligence du cœur. Je suis bien d'accord avec vous. Et c'est Romain que je retrouve. Romain, vous êtes là ?
Oui.
Alors, si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué au début de notre conversation, vous avez rencontré une femme il y a quelques années, vous avez découvert assez vite qu'elle vous a menti sur son âge, menti sur le fait qu'elle avait déjà deux enfants de deux hommes différents.
Oui.
Vous avez eu un enfant avec elle.
Oui.
Et elle a commencé, vous avez déjà repéré qu'elle avait un caractère assez fort, un tempérament explosif, et elle a commencé à vous maltraiter physiquement et moralement aussi.
Surtout moralement et psychologiquement à ce moment-là.
Qu'est-ce qu'elle vous disait, par exemple? Quel genre de phrases elle pouvait utiliser contre vous?
Elle pouvait me dire que je valais rien, que j'étais un branleur, qu'elle était extrêmement belle et que du coup elle méritait de pouvoir coucher avec des milliers d'hommes, qu'il fallait que je sois digne d'être avec elle. Et voilà, alors que voilà, c'est moi ce que... Ce qui me faisait beaucoup de mal, c'était le fait que j'endossais tout dans notre relation en tant que couple, en tant que père, en tant que personne qui se lève le matin pour aller travailler. Moi, du coup, je suis infirmier et j'étais le seul à travailler. Je ne travaillais pas.
Est-ce qu'elle vous parlait comme ça devant des gens ou jamais? Toujours quand vous étiez seul?
Au début, non. C'était quand on était seul. Après, ce n'était pas un systématique au début. C'était... S'il y avait des situations conflictuelles, après, elle arrivait, si elle s'énervait, ça arrivait là-dessus. C'était pas forcément au début, ça a été peut-être à partir des 1 ou 2 ans de mon fils, donc plutôt vers 2016-2017, dans les 2-3 dernières années de notre relation, où ça a été bien plus virulent, où c'était très souvent, et où c'était beaucoup plus violent.
Et vous réagissiez à ce moment-là ou pas?
Je répondais. Je répondais toujours la même chose. Je disais que c'est moi qui me levais, qui allait travailler, que moi j'essayais d'argumenter en lui exposant les problèmes qu'on avait, etc., les problèmes financiers qu'on pouvait avoir, que mon salaire suffisait pas, et que petit à petit je me rendais compte que j'essayais de construire une personne, chose que j'aurais jamais dû essayer de faire, parce que après voilà tout. Les mensonges qu'elle m'avait, toutes les choses qu'elle m'avait cachées aussi, c'est-à-dire que je la voyais avec une voiture, etc. C'est quelqu'un qui n'avait pas le permis. Donc,
ah oui, c'est une menteuse professionnelle, dis donc.
C'était tout ça. Donc il a fallu que je lui finance son permis, une voiture, l'assurance auto, tout ça. Elle n'avait pas de diplôme non plus, donc je lui ai payé une école d'esthéticienne parce que c'est ce qu'elle voulait faire. Une école qui m'a coûté plus de 4000 euros à l'année. Et en gros, j'ai vraiment été un pigeon, on va dire les choses.
Mais le jour où elle vous a vraiment tapé, là, vous avez réagi quand même.
Oui, bien sûr, c'était la limite pour moi.
C'est ça, voilà. À un moment donné, c'est stop, quoi.
C'était vraiment la limite, parce que moi, je savais déjà que physiquement, je pouvais largement avoir le dessus sur elle, mais pour moi, c'était pas comme ça qu'on allait régler les choses.
C'est pas le but, évidemment, oui.
Donc voilà, puis en plus, c'était une période où, depuis un an... presque 2 ans où elle s'alcoolisait quotidiennement.
Ah oui.
Après, c'est quelqu'un qui fume du cannabis tous les jours. Voilà. Ça a été un gros conflit quand elle était enceinte de mon fils, parce qu'elle fumait même enceinte. Donc là aussi, il y a eu une période très compliquée.
Ah oui, c'est quand même une sacrée personnalité. Hein.
C'est une sacrée personnalité, très menteuse, très manipulatrice. Ouais. Et puis, du coup, sur la fin, c'était ça, beaucoup de violence, beaucoup d'humiliation devant les amis, devant les enfants aussi. C'est-à-dire que quand moi, je cadrais les enfants, parce que les enfants ne sont pas toujours merveilleux, ils n'écoutent pas toujours et ils ont
besoin de cadre.
Et du coup, elle m'insultait, elle me disait de fermer ma bouche.
Mais comment peut-on, vous m'avez dit, elle s'occupait des enfants. Comment peut-on s'occuper des enfants quand on fume des joints et qu'on est sous alcool?
Alors,
ça m'inquiète un peu pour eux quand même.
Elle ne s'occupait pas vraiment des enfants, c'est-à-dire que...
Elle ne les maltraitait pas, alors, d'accord.
Elle ne les maltraitait pas physiquement, en tout cas. Enfin, en tout cas, mon fils, parce que à un moment donné dans notre relation sur la dernière année, son fils aîné qui à l'époque, donc c'était en 2018, donc il avait 12 ans, il a fait un signalement au CMP où il était suivi parce que sa mère lui avait mis un coup de poing dans le visage.
Ah oui, quand même.
Donc ce signalement a valu qu'on ait des assistantes sociales à la maison. Donc finalement, il n'y a pas eu suite. En même temps, donc ça c'était dans les 6 derniers mois, où ça a été vraiment une avalanche de pas mal de choses. Donc on ne dormait plus ensemble là, depuis plus d'un an. Elle dormait dans le canapé parce qu'elle, elle se couchait quand moi je me levais. Elle se couchait à 5h du matin. Moi je me levais à ce moment-là. Donc soit je m'occupais des petits parce que je les amenais chez ma mère ou chez ma belle-mère avant d'aller travailler, que je devais lever très tôt le matin.
Mais alors ça, votre belle-mère, c'est donc sa mère à elle ?
C'est sa mère à elle, oui.
Et vous arriviez à en parler avec elle ? Vous arriviez à échanger là-dessus ?
Avant qu'on se sépare, on était très très proches, oui.
Elle s'inquiétait elle aussi pour sa fille ?
Elle s'inquiétait pour sa fille. Elle s'inquiétait pas mal aussi pour moi. Elle s'inquiétait pour les petits. C'est quelqu'un qui, jusqu'à la séparation avec mon ex-compagne, a toujours été dans la bienveillance avec moi.
D'accord.
Et qui m'a tourné le dos une fois que je me suis séparé de sa fille.
Ah. Et pourtant, c'était prévisible, voilà. Non ?
Oui, c'était prévisible parce que je lui disais, moi, et puis après, bon, c'est des familles qui ont un profil bien particulier. Hein. Cette maman, même si elle est gentille maintenant, elle a pas élevé ses enfants parce qu'ils ont tous été placés à la DAS.
Ah oui, d'accord, il y a un passif.
Voilà. Il y a un sacré passif.
Oui, ouais, bien sûr.
Ouais. Il y a un sacré passif. Et donc, du coup, ensuite, il y a eu notre séparation. Où là, ça a été la fin de la vrille totale, où elle a disjoncté le lendemain, où elle m'a frappé, je lui ai dit que c'était terminé, que j'allais m'occuper de mon fils et qu'elle faisait ce qu'elle voulait. On allait se débrouiller, ensuite tout organiser. Moi, j'étais prêt à faire une médiation. Là, sur le coup, elle a dit qu'elle ne voulait rien savoir. Elle a dit qu'elle partait. Elle s'est mise à genoux devant mon petit garçon qui avait 4 ans à l'époque, il y a 2 ans. Et elle lui a dit, voilà, maintenant, moi, je pars. Tu ne reverras plus jamais ta maman. Voilà. Et elle est partie.
Quelle violence pour le petit.
C'est très violent. C'est très, très violent. Ouais. Et elle est partie. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles. En tout cas, mon fils n'a pas eu de nouvelles pendant plusieurs mois. Parce qu'après, moi, il a fallu que je m'occupe du déménagement tout seul. J'avais un cabinet d'infirmier libéral que j'ai monté tout seul. Et que, voilà, j'avais beaucoup de projets avec ce cabinet. J'ai fait une maison médicale. Ça faisait 3 ans que je l'avais, donc je me suis rapidement rendu compte que, en gardant ce cabinet, travailler 60-70 heures par semaine
avec un enfant, c'est pas possible.
Avec mon petit, c'était pas possible, donc je l'ai vendu.
Vous saviez où elle était pendant ce temps-là ?
Ben, je savais qu'elle était sur la ville où on habite et qu'elle squattait à droite à gauche.
Donc
elle envoyait des messages, et c'est ce qu'elle disait à ma mère. Elle était encore en contact avec ma mère. Et tout ce que je vous dis là, tous ces messages, etc., c'est des choses que j'ai pu garder pour les donner au juge.
Qu'est-ce qu'elle disait à votre mère, par exemple ?
Les messages, elle disait qu'elle perdait pied, qu'elle avait un problème, qu'elle avait envie d'en finir, qu'elle se droguait, qu'elle buvait, toutes ces choses-là.
Mais qu'est-ce qu'elle espérait de votre maman à vous ?
Elle espérait que ce soit elle qui garde le petit. Elle espérait qu'elle voulait à tout prix que ce ne soit pas moi qui le garde.
Ouais. Et comment elle a réagi, votre mère ? Parce que c'est violent quand même pour une belle-mère de recevoir tout ça.
Ma mère, elle lui a dit que j'étais le père, quoi. Évidemment que mon fils, je m'en suis occupé depuis sa naissance. Mon fils, il est hors de question qu'il reste avec quelqu'un d'autre que moi. En tout cas, ce n'est pas sa mère. Pour m'accompagner là-dedans dans quelque chose de partagé ou autre. Et donc du coup moi je suis après la vente de mon cabinet, donc qui a été quand même très rapide, c'est-à-dire un mois et demi après, je me suis rapproché de chez ma mère à 70 km de là où on habitait, et donc j'ai pu essayer de me restabiliser, de retrouver du travail du coup après la vente de mon cabinet, réinscrire mon fils parce que du coup c'est tombé au moment des grandes vacances scolaires. Donc j'ai pu réinscrire mon fils en moyenne section à l'école où il est toujours.
Et comment il allait, ce petit bonhomme, à ce moment-là ? Parce que sa maman a disparu du jour au lendemain pour lui.
Au début, ça allait, parce qu'il a noué un lien très fort avec ma mère. Vraiment très fort. Et puis, petit à petit, les mois ont passé. Et quand il a été de nouveau en contact avec sa mère, c'est là où il y a eu des difficultés. Mais pas avant. Avant, ça allait, il gardait tout ça bien enfoui, et dès qu'il a été de nouveau en contact avec sa mère, c'est là où il était en difficulté, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de réveils nocturnes, il y avait pas mal de blocages pendant la journée où il allait se poser sur son lit, il restait comme ça.
Parce qu'elle est revenue au bout de combien de temps ?
Les vrais contacts avec son fils se sont faits, je dirais, entre octobre et novembre, et on s'est séparés au mois de mai 2019.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit en revenant ? Qu'est-ce qu'elle a eu comme argument ou comme mot, je ne sais pas ?
Non, ça a été plus. Il y avait quand même des échanges de messages, mais sans volonté réelle de vouloir voir son fils. Mm-hmm. Ou avec ma mère, on essayait de s'organiser pour lui amener sur place. Donc on faisait la route, on faisait 70 km. Et puis des fois, elle nous disait « Ah ben non, j'ai ça ». Il y a des messages où elle disait « Ben non, j'ai une crémaillère, je ne peux pas venir, je ne peux pas, ça ne sert à rien que je le vois juste pour une heure ou deux, on verra ça le week-end prochain. »
Mais donc ça allait pas, elle n'était pas dans l'axe hein.
Non, elle n'était pas du tout dans la dynamique de recréer quelque chose. Enfin, en tout cas, elle délaissait totalement son fils.
Oui.
Elle n'a pas été là pour la rentrée scolaire, elle n'était pas occupée de rien. Enfin voilà, il n'y a rien eu de tout ça.
Et je pense qu'elle n'était pas en état, visiblement.
Non, pas du tout, pas du tout. Elle ne l'est toujours pas, pour moi, mais... Et donc voilà, donc moi entre-temps j'ai quand même saisi le JAF, parce que c'est le genre de personne qui se pense au-dessus des lois et qui n'a jamais été confrontée à la loi.
Juge c'est-à-dire aux affaires familiales, hein, je précise.
Voilà, le juge aux affaires familiales. Mmh. Et du coup, il y a eu une première audience où moi j'avais demandé la garde exclusive et des visites médiatisées, puisqu'elle n'avait pas de lieu d'hébergement pour accueillir mon fils, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pendant des mois, elle était sans domicile fixe. Et j'ai demandé ça, visite médiatisée, la garde exclusive. J'ai dit que je ne voulais pas qu'elle paye de pension alimentaire.
Mmh.
Et puis voilà. Et j'ai demandé aussi une enquête sociale pour suite aux visites médiatisées.
Est-ce qu'elle savait ça ? Est-ce que vous lui avez fait savoir cette demande avant ?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et alors, comment elle l'a pris ?
Elle aurait voulu qu'on s'arrange autrement, quoi. Elle aurait voulu qu'on fasse ça sans avocat, sans rien.
Oula, avec quelqu'un comme ça, sûrement pas.
Mais pour moi, c'était pas possible. Ouais. Hors de question. Pour moi, les choses étaient bien claires. C'était plus possible de faire confiance à ce genre de personne et ça ne l'est toujours pas. Donc voilà, pour moi, il fallait forcément que la justice ait un œil sur notre situation pour traiter tout ça. Et donc voilà, les visites médiatisées se sont faites.
Donc vous avez eu la garde, c'est ça ?
Oui, bien sûr, le JAF a tout accepté.
Okay.
Le JAF a tout accepté, visite médiatisée, l'enquête sociale, pas attention alimentaire, forcément.
Est-ce que vous avez pu expliquer avec des mots compréhensibles pour un enfant ce qui se passait à ce petit garçon ?
Alors, moi, je l'ai rapidement fait suivre par un CMP, un centre médico-psychologique, donc qui voyait une infirmière. Il y a eu un entretien avec une pédopsychiatre.
Une pédopsychiatre, oui.
Voilà, et je le faisais suivre aussi en parallèle par une psychologue libérale.
Bon, donc il y a des mots qui ont été mis là-dessus, c'est important.
Voilà, il a mis des mots, ça a quand même été compliqué, c'est-à-dire qu'avec moi, il arrivait à verbaliser, mais il y avait toujours des difficultés avec sa maman.
Ben oui.
Et d'ailleurs, j'ai des écrits là-dessus, j'ai beaucoup d'écrits que j'ai pu transmettre au JAF, et qui sont vraiment alarmants.
De qui ?
De la pédopsychiatre, par exemple, du CMP,
oui.
que j'ai sous les yeux, là, par exemple, je peux vous lire... trois lignes où la pédopsychiatre note durant l'entretien, Issam, donc c'est mon fils, donc ça c'est avec sa mère, durant l'entretien, Issam se montre agité, anxieux, a besoin de réassurance ainsi que de rassurer sa mère qui ne l'oublie pas et l'aime. Ceci à plusieurs reprises, je tente de préciser pour lui dans des phrases simples ce qui est en train de se passer, la séparation, le passage devant le juge qui va décider de la garde. Mais Issam ne peut écouter, il semble avoir très peur.
Mais oui, forcément.
Ne conçoit pas la séparation.
Mmh.
Voilà.
C'est compliqué dans la tête d'un petit garçon de 5-6 ans de comprendre tout ça.
Là, à ce moment-là, il avait 5 ans. C'était plus compliqué. Après, j'avais des contacts avec tout le monde. C'est-à-dire que même avec l'école, il a eu une maîtresse formidable avec que j'ai pu rencontrer plein de fois. Et elle me disait de ne pas trop m'inquiéter parce qu'il cloisonnait quand même. Alors, ce n'est pas forcément bon qu'un enfant cloisonne totalement.
Non, mais c'est une manière de tenir debout.
Voilà, c'était quand même
sa manière
mettre en
à lui,
place déjà ses mécanismes de défense.
Oui, tout à fait.
Et à l'école, c'était l'école, quoi. Il ne laissait pas transparaître d'autres des émotions tristes ou toutes ces choses-là.
Il évolue normalement. Il évolue sur tous les plans normalement. Ouais. Ça, c'est bien, c'est formidable.
Totalement, surtout que c'est un garçon c'est un petit garçon qui est adorable. Il est vachement empathique. La maîtresse me raconte que s'il y a un petit garçon, un petit de petite section qui va tomber, ben, Itam, c'est celui qui va courir pour aller le ramasser.
C'est mignon.
C'est celui qui va aider les petits pour mettre les manteaux quand ils vont sortir pour aller dans un cours de récré.
Il a des vraies valeurs, quoi.
Oui, vraiment. Et donc voilà, donc les mois se sont enchaînés suite à la décision du JAF. Mon ex-compagne a mis en place une stratégie afin de récupérer la garde, qui a été pour moi c'est quelque chose d'ignoble ce qu'elle a pu faire, c'est-à-dire qu'une fois alors qu'elle l'avait un week-end, c'était au tout début quand elle reprenait contact avec lui, c'était même avant qu'il y ait le JAF avant que le JAF acte ma garde, elle a eu Issam la toute première fois avec, il y avait sa mère, il y avait son père, il y avait la grand-mère, le grand-père, tati, tonton, toute la famille. Et Issam aurait dit que mon petit frère, parce que j'ai un petit frère qui vient encore chez ma mère, puisqu'on a 14 ans d'écart, donc à ce moment-là, mon petit frère avait 14 ans. Elle a raconté que mon petit frère avait probablement fait des attouchements sexuels à Issam.
Le grand argument pour récupérer...
Voilà, donc j'ai quand même pas pris ça à la légère, c'est-à-dire que moi à ce moment-là, ça faisait, vu que avec la vente de mon cabinet et tout, je me suis retrouvé en très grande précarité financière. J'ai pas trouvé une maison tout de suite, puisque ma mère a une grande maison à la campagne, il y a 5 chambres, on avait de quoi faire, on avait notre intimité avec mon fils. Et surtout que c'était le village de l'école, donc c'était très pratique. Ma mère étant très très aidante et très proche de mon fils. Donc à ce moment-là, dès qu'elle m'a dit ça, je suis parti de chez ma mère. J'ai pris une maison avec mon fils et pour l'éloigner au cas où. Et à partir de là, ça a été dramatique dans ma famille parce qu'il y a des choses qui se passent aussi. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on en tienne compte, même si on pense que c'est pas vrai, quoi qu'il arrive, vous avez toujours ça dans le coin
doute.
De votre tête.
Oui, elle a semé le doute, évidemment. Mais oui.
Et si c'était vrai? Donc mon frère m'en a beaucoup voulu, il m'en veut encore. D'ailleurs, il y a eu une procédure Mélanie, c'est-à-dire que c'est pas resté comme ça. Il y a le procureur qui a été saisi, il y a eu une procédure Mélanie. Mon fils a été entendu par des psychologues, un pédopsychiatre.
Est-ce qu'il y a eu la moindre preuve ou le moindre doute?
Il n'y a strictement rien eu.
Rien.
Lors de la quatrième audition devant des caméras et les gendarmes, on est sorti. Et pour la première fois, j'ai demandé aux gendarmes s'ils pouvaient me dire quelque chose. Et la dame, qui a été vraiment très gentille, elle m'a dit « Rassurez-vous, il n'y a strictement rien. »
Bon, ben voilà.
Pour des enfants qui ont moins de 7-8 ans, elle m'a dit, ils disent, en fait, ils parlent au travers du jeu, au travers... Après, quand ils sont plus grands, ils comprennent que s'ils parlent, il y aura des problèmes derrière dans la famille. Mais à 5 ans, ils ne comprennent pas, ils ne cachent pas.
Et même sans parler, ça peut ressortir par des comportements, par d'autres problèmes. Hein. Les psys ont l'habitude de ça et de comprendre assez vite ce qui a pu se passer.
Bien sûr. Et donc voilà, donc ça a été une grosse épreuve. Mon petit frère a fait de la garde à vue.
Oh là.
Aujourd'hui encore, il me parle. Aujourd'hui encore, il n'a toujours pas été véritablement en contact avec mon fils. Parce que y a eu le juge des enfants qui a été mis dans la boucle suite à une information préoccupante. Et lors de cette audience du juge des enfants, moi, je n'ai pas été convoqué. Donc, il n'y a que mon ex-compagne qui a été convoquée. 3 mois auparavant, il y avait eu donc la procédure Mélanie avec un non-lieu qui avait été stipulé, un classement sans suite même. Et elle s'est bien gardée de le dire au juge des enfants. Donc, le juge des enfants a statué suite aux accusations, etc., vis-à-vis de, à l'encontre de mon petit frère, donc, qui avait une AEMO. Donc, c'est une mesure éducative avec les services de l'ASE. Mm-hmm. Donc, une AEMO renforcée en plus. C'est-à-dire qu'on voit très souvent les services de l'ASE. Et en parallèle, le JAF, lui, donc, ça a continué son chemin. Il y avait ensuite une enquête sociale. Et c'est là que tout a dérapé. C'est là où moi, maintenant, j'ai peur. C'est là où je souhaite alerter des grosses défaillances de la justice française.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Cette enquête sociale a été menée par une enquêtrice. Pour le coup, j'avais dit que je voudrais rester anonyme. Enfin, je pense que je vais le rester. J'ai très envie de dire son nom parce que...
Non, ça surtout pas.
Mais, Mais bon, je m'apprête à faire appel, donc j'ai peur que ça me porte préjudice.
Non, puis même, de toute façon, on ne fait pas ça ici. Pas dénonciation.
Ouais. Donc, si vous voulez, cette enquêtrice sociale a rencontré mon ex-compagne presque un mois avant moi. Et je pense qu'elle s'est éprise de beaucoup d'empathie, de quelque chose, il s'est joué quelque chose dans cette relation. Quand elle m'a rencontré, elle m'en a parlé. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré mon ex-compagne et qu'elles avaient beaucoup échangé l'une avec l'autre. Ouais. Et donc là, je me suis dit, ok, bon, il y a du travail à faire. Je lui ai raconté mon histoire. Mmh. Et elle s'est pas intéressée à plus que ça. Je lui ai expliqué la violence de cette personne. Je lui ai dit où chercher. Je lui ai dit que si elle voulait des preuves, je pouvais lui en donner. Elle m'a expliqué que elle, c'était pas sa manière de travailler, qu'elle attendait pas que je lui fournisse des pièces, elle ne regardait pas le dossier qu'il y avait en cours, c'est-à-dire qu'il y avait un dossier au JAF avec toutes les pièces que j'ai déposées, et elle m'a dit je ne regarderai pas ce dossier.
C'est aberrant. À mon avis, elle est arrivée, elle avait déjà son opinion, quoi.
Oui, c'est sûr et certain, parce qu'après j'ai des gens qui m'ont appelé. Donc c'est-à-dire qu'ensuite cette personne a fait un rapport à charge contre moi. Et donc, elle a appelé des gens, je ne sais pas où est-ce qu'elle va obtenir des informations sur mes qualités éducatives, mais elle a appelé une ancienne collègue à moi du temps où j'avais mon cabinet d'infirmier libéral. Et cette personne-là a dit énormément de mal de moi. Alors, comme moi, j'ai expliqué à l'enquêtrice, évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle dise du bien de moi, parce que cette personne, dans les 6 derniers mois avant que je parte de mon cabinet, en fait, moi, j'ai créé mon cabinet tout seul. Cette personne était en difficulté, une infirmière. Je l'ai prise avec moi. Et vous savez, normalement, quand vous avez un cabinet, quand il y a un nouvel infirmier qui vient, vous pouvez lui faire payer des parts du cabinet. Elle était en grosse difficulté. Je lui ai dit que je la faisais venir avec moi gratuitement. On a lié une vraie amitié, je pense. En tout cas, pour moi, c'était sincère. Et cette personne, un jour, m'a dit qu'elle allait aller voir les patients et qu'elle allait essayer de me prendre la patientèle de mon cabinet. Donc, en fait, moi, j'ai saisi l'ordre infirmier, j'ai porté plainte contre elle.
Oui, donc il y avait un conflit entre vous, quoi, oui.
Bien sûr, parce qu'elle a été sanctionnée de 3 ans de prison, mais de 175 000 euros.
Donc, c'est très facile d'aller récupérer un témoignage à charge.
Voilà, donc à ce moment-là, quand même, moi, je sais qu'elle a un fils que j'ai rencontré, à qui j'ai donné des cours de soutien de maths, etc. Et j'ai retiré ma plainte au dernier moment pour ne pas qu'il y ait de sanctions. Et tout s'est arrangé en interne. Et au moment où j'ai vendu mon cabinet, elle a pu racheter des parts du cabinet.
Bah, elle vous l'a bien vendu, dit-on.
Oui, c'était...
C'est beau, la reconnaissance.
Oui, vraiment.
Ouais.
Donc voilà, il y a eu ça. Et ensuite, tout ce que l'enquêtrice a pu raconter, c'est exactement les propos de mon ex-compagne. C'est-à-dire que c'est un menteur, voilà. C'est un menteur et elle se défend du fait qu'elle m'a laissé mon fils pour le récupérer ensuite. Et donc moi j'ai eu énormément d'attestations. J'ai même dit à l'enquêtrice d'appeler mon meilleur ami qui était là quand elle l'a frappé, etc. Elle n'a même pas pris la peine de le faire, alors que mon meilleur ami était aussi le meilleur ami de mon ex-compagne. Elle disait que c'était son petit frère. Elle n'a pas appelé, elle a appelé d'autres personnes. Elle n'a pas appelé cette personne-là. Elle a appelé la psychologue libérale de mon fils, qui, elle, une fois qu'elle a eu l'enquêtrice, m'a appelé, la psychologue. Elle m'a dit, faites très attention, la personne que je viens d'avoir, l'enquêtrice, elle a déjà choisi son camp. Donc faites attention à ce que vous lui dites, etc. Et de toute façon, après, j'ai quasiment eu aucun autre contact avec l'enquêtrice.
Elle n'a même pas cherché.
Non. Pendant 3 mois, j'ai eu 2 autres messages qui ont donné suite à des appels. Ces 2 messages, c'était lors de conflits, après des messages échangés avec mon ex-compagne. Elle n'était pas d'accord avec ce que je lui disais, et du coup, en fait, elle faisait intervenir l'enquêtrice. Donc, l'enquêtrice ensuite m'appelait pour m'exposer sa vision des choses.
On a l'impression, effectivement, qu'elles ont développé un lien toutes les deux. Hein.
Oui, bien sûr.
Oui.
Et le plus grave dans tout ça, c'est que du coup, le jour du JAF, nous sommes partis... Eh bien, moi, avec mon énorme dossier, c'est-à-dire que, après, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que moi, depuis que je me suis séparé de mon ex-compagne, donc qui est d'origine algérienne et qui était de confession musulmane, totalement non pratiquante, au vu de ses pratiques avec la drogue et l'alcool, si vous voulez, depuis 2 ans, depuis qu'on s'est séparé, Il y a énormément de choses qui m'ont alerté, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de harcèlement de sa part par message. Elle est venue en bas de chez moi avec son nouveau compagnon. Donc,
dans quel
ils
but
sont venus dans le but de me tabasser, de kidnapper mon fils, et avec des propos totalement délirants et sur l'islam, sur le fait que Allah veille sur tout et que je vais être rétribué, etc. Plein de choses. Des choses qu'elle a pu me dire par message. J'ai des centaines de screenshots de messages que j'ai donnés au JAF où elle dit des choses comme ça, où elle dit que je vais que Allah punit les injustes et que les injustes serviront de combustible à l'enfer, avec des photos sur voilà, sur plein de choses. Et surtout que j'ai eu aussi du coup j'ai fouillé un petit peu pour savoir ce qui se passait. Et j'ai trouvé aussi son profil Facebook professionnel. Je ne parle pas de personnel, parce qu'à mon avis, le personnel est protégé. Mais le professionnel, pour qu'elle puisse avoir des vues, il est en profil public. Et son profil professionnel est rempli de propos sur l'islam, sur Yasser Arafat, sur la Palestine, sur tout ça. C'est très inquiétant.
Mais ce n'était pas comme ça avant, quand vous étiez avec elle ?
Pas du tout, pas du tout. De toute façon, on voit sur son Facebook, de toute façon, qu'il y a un avant-après séparation. Avant, c'était, elle parlait de ses tarifs d'esthéticienne, etc. Même si elle ne travaillait pas et qu'elle était toujours au RSA, elle essayait de mettre en place, mais sans succès, parce que pour ça, il faut se lever le matin, il ne faut pas se coucher à 5h du matin. C'est affligeant. J'ai tous les... J'ai tout, enfin là je les ai sous les yeux parce que j'ai pris le dossier, mais c'est incroyable, j'ai des centaines de choses, des centaines de photos, c'est très très inquiétant.
Mais
moi, ça me fait très peur.
Ça a pesé ça dans le dossier ?
Eh bien le compte rendu du JAF, la réponse du JAF, ça a été donc c'est tombé mardi, et la réponse ça a été... attendu qu'il résulte des énonciations du rapport d'enquête sociale. Donc voilà, que nous sommes tous les deux des parents aimants. Mais devant l'hypothétique mythomanie du père, comme l'a pu dire le rapport, il y a un transfert de résidence de mon fils chez la mère.
Ah là là.
Voilà. Donc il n'y a rien, rien n'a été dit par rapport à tout ça. La seule chose qui est dit, c'est que, donc du coup, après nos 7 années de vie commune, que nous nous sommes séparés en juin 2019 et que Yasmina, mon ex-compagne, alors sans logement, laissait provisoirement l'enfant commun à la garde du père et que maintenant, du coup, elle le récupère.
Elle a réécrit l'histoire, quoi.
Voilà, ben, c'est surtout qu'en fait, au niveau de la justice, en voyant ces mots-là, c'est-à-dire qu'en disant quand même, malgré tout ça, malgré cette violence, malgré cette pseudo-radicalisation, parce que je ne sais pas à partir de quand est-ce qu'on peut parler de radicalisation, mais malgré tout ça, en plus de ça, il y a marqué que maintenant elle le récupère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le droit, l'autorité parentale de la mère est supérieure à celle du père ? Là-dedans, c'est-à-dire que la mère peut confier l'enfant au père et décider de le reprendre quand elle le souhaite.
Oui.
Si elle peut faire ça, c'est qu'effectivement, l'autorité parentale de la mère est supérieure à celle du père.
Qu'est-ce que vous avez fait,
Là, moi, je suis en train de réfléchir avec mon avocate à faire appel, sachant qu'on s'est renseigné, l'appel, ça prend 2 ans.
Et qu'est-ce qui se passe pour le petit, alors, pendant ces 2 ans ?
C'est-à-dire que là, à la fin de l'année scolaire, il est censé partir habiter chez sa mère.
Même si vous êtes en appel ?
Même si je suis en appel, on doit suivre la procédure JAF, les consignes du JAF.
Et donc, il vous dit garde complète pour elle et quoi pour vous ?
Voilà. Et moi, je le vois un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et j'ai une pension alimentaire à payer.
Oui.
Puisqu'elle ne touche que le RSA.
Donc, ça s'est complètement inversé.
Ça s'est totalement inversé au vu du rapport d'enquête sociale. Voilà. Il y a juste ce rapport. Et voilà. Donc, moi, maintenant, j'ai contacté plusieurs associations. J'essaye de contacter les médias parce que je veux vraiment alerter. J'ai très peur pour mon fils. Il a une vie, je dirais pas nouvelle, mais en tout cas, il s'est adapté à cette vie depuis 2 ans, où maintenant, il renoue à peine des liens avec sa maman. Et
ça a tout chamboulé.
Bien sûr, surtout que je suis un papa très investi, je m'occupe beaucoup de lui. J'ai fait en sorte de trouver un nouvel emploi où je suis totalement disponible pour mon fils. C'est catastrophique parce qu'en plus, le JAF nous laisse avec cette décision et il n'y a aucun accompagnement derrière.
Que dit votre avocat justement de ce qui vient de se passer là ?
Mon avocate est choquée de ça. Donc elle me dit que c'est pas normal, qu'on va faire appel, qu'on va essayer de rajouter des pièces et qu'on va essayer de ressaisir le JAF en référé.
Oui.
Mais le problème quand on fait un référé, c'est-à-dire qu'on peut passer très rapidement, c'est-à-dire dans le mois, mais c'est avec le même JAF.
Oui.
Non. C'est avec le même, donc en fait, pour moi, ça ne changera rien. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a le juge des enfants dans la boucle, parce qu'il y a eu, avec la mesure d'AEMO, et les demandes qui sont faites du coup par le juge des enfants suite aux accusations sur les attouchements sexuels de mon frère, avec qui mon fils n'est plus en contact depuis plus de 18 mois. Et bien du coup, en fait, il va y avoir une fin de prise en charge. Et normalement, au mois d'août, le juge des enfants aura dans les mains nos dossiers.
Ça peut donner un œil différent, quoi.
Ben, c'est surtout que le juge des enfants, par exemple, enfin, le juge des enfants, s'il décide quelque chose, le JAF ne peut pas statuer au-dessus, quoi, si vous voulez.
Oui. J'imagine l'angoisse dans laquelle vous êtes.
Oui, parce que j'ai aucune certitude.
Oui.
J'ai aucune certitude par rapport à ce que va statuer le juge des enfants. Au vu de ce que j'ai pu donner au JAF, il n'y a rien qui a été pris en compte. Et mon fils est en danger. Mon fils est en danger et la justice française laisse faire tout ça. Surtout que mon ex-compagne, elle, il y a l'AMO, elle l'a aussi de son côté et ça n'a toujours pas commencé. Donc, c'est-à-dire que mon fils n'a toujours pas vu les services de l'ASE avec sa mère.
Oui. Est-ce que vous êtes en contact avec elle ?
On s'échange assez souvent des messages, oui, vu qu'elle le voit un week-end sur deux.
Qu'est-ce que vous vous dites là en ce moment ?
Moi, je ne lui dis pas grand-chose parce que là, maintenant, elle est rentrée dans des messages de toute puissance où elle me fait la leçon, où elle me dit que Dieu est grand et que maintenant, je vois à quel point il est puissant parce que maintenant, elle a gagné.
Mmh.
Donc voilà. Ça me fait vraiment réellement réellement peur, mon fils aussi. Le problème, c'est que ce que dit mon fils, j'ai peur de le répéter, c'est-à-dire parce que sinon on va me raconter que je l'instrumentalise.
Qu'est-ce qui vous dit, lui, le petit?
Ben, mon fils, par exemple, il a fallu lui en parler parce que forcément, c'est tombé mardi et il a sa mère en visio environ tous les 3-4 jours. Donc, c'est la première chose qu'elle allait s'empresser de lui dire. Donc j'ai décidé de lui en parler. Donc lui, sa première réaction, ça a été assez enfantin. Il m'a dit « c'est nul
».
Voilà. Et ensuite, il m'a dit, au bout de 2 minutes de discussion, il m'a dit « je veux parler à madame, la dame de l'ASE ». Voilà, donc ça, c'était très étonnant. C'est la première fois qu'il m'en parle. Mais je pense qu'il a bien ciblé que cette personne-là…
Et puis, il a grandi aussi, il commence à comprendre des choses maintenant.
Bien sûr, il a grandi, il a 6 ans, il est très intelligent. Il est très, très éveillé et il a beaucoup de valeur. Il est très bien éduqué. Et voilà, et là, mon fils, c'est un enfant qui, vous le posez le soir à 19h45 ou 20h dans le lit, vous allez le chercher le lendemain à 7h30, il n'a pas bougé, il dort dans la même position. Il n'y a aucune difficulté d'endormissement, il dort très bien. Et là, ça fait 2 nuits depuis, donc ce n'est pas toutes les nuits, mais 2 nuits quand même depuis mardi, où il se réveille 4-5 fois.
Mais évidemment,
Je l'ai récupéré en pleurs au milieu du salon. Donc, c'est-à-dire qu'il est sorti de sa chambre, il est parti dans le salon et il pleurait sur le canapé, il était 2h du matin. Jeudi, quand je suis parti le chercher à l'école, tous les jours, il me fait un dessin. Tous les jours à l'école, il me fait un dessin. C'est un peu notre petit rituel. Quand je vais le chercher, il me le donne. Il y a écrit très souvent « Papa » et « Issam ». Et il y a tous les deux, il y a plein de cœurs. Voilà.
Mmh.
Et jeudi, il a oublié ce dessin à l'école. Il m'a dit qu'il l'a oublié à l'école. Il s'est mis à pleurer. Il était inconsolable. Et la première chose que je lui ai dit, c'est pas grave, tu le récupéreras demain à l'école. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « Maman, elle me blesse ». Le problème, c'est que si je répète ça, « Maman, elle me blesse », ça fait des mots très adulte, c'est pas vraiment des mots d'enfant.
Oui, puis vous n'avez pas de preuve, vous n'avez aucune preuve de ça.
Non, bien sûr, j'ai pas de preuve non plus, mais je veux dire, si, même s'ils sortent ce genre de choses-là, j'ai peur qu'on m'accuse d'instrumentalisation sur mon
site. Il faut que ce soit des propos rapportés par un pédopsie.
Oui,
ça, ça aurait
du
poids.
Bien sûr. Mais il y a la pédopsie qui l'a déjà rapporté. Il y a la psychologue libérale qui a fait un dossier sur ça, qui a alerté.
Mais vous parlez de la première fois.
Oui, bien sûr. Mais après, il y a la dernière psychologue qui l'a vue, qui le suit. Elle a fait un dernier bilan il y a moins de 6 mois. C'était au mois de février.
Oui, sauf que là, il y a du nouveau depuis.
Oui, bien sûr. Voilà. En plus, il y a du nouveau depuis. Hein. Mais... Donc là, oui, moi, évidemment, j'ai pris rendez-vous après chez sa psychologue, donc il va la voir pour pouvoir s'exprimer sur tout ça. Mais c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, d'autant plus que j'ai essayé de montrer des choses à la justice. Et par exemple, le nouveau compagnon de mon ex-compagne, il est totalement caché depuis plus de 2 ans. Je sais qu'elle est avec lui depuis notre séparation, peut-être même avant. Et je sais aussi qu'il habite là-bas. Et ça n'a pas été cherché par l'enquêtrice.
Ça n'a pas été mentionné dans le dossier, ça.
Il n'y a pas une seule fois où on voit le nom où on voit le prénom, j'allais pas dire le nom. Où on voit le prénom ou le nom de ce monsieur. Pas une seule fois. Moi, j'ai dû, après le rapport d'enquête, pour prouver tout ce que je disais, j'ai dû payer un détective privé. Et quand je parle de détective privé, je parle pas de Marcel l'alcoolo du coin. Hein. C'est quelqu'un d'assermenté par l'État. Oui. Qui travaillent justement pour les tribunaux, ce sont des dossiers officiels qui vont dans les tribunaux et qui sont reçus par les tribunaux. Ce monsieur est resté 15 jours donc en bas de chez mon ex-compagne et il a attesté que cet homme vivait là-bas. De toute façon, même sans détective privé, mais je me suis dit que ça ne suffirait pas, vous tapez sur Google son prénom et son nom, et la première ligne, c'est les trucs de annuaire, je ne sais pas quoi. C'est la même adresse que mon ex-compagne.
Oui, donc c'est pas besoin de chercher très loin. C'est très facile à prouver. Quoi.
C'est très simple, voilà.
Donc Mais votre avocate, elle peut s'en servir quand même.
Tout ça, on s'en est servi déjà.
C'est fou.
C'est ça le plus dramatique. C'est que tout ça, on s'en est servi. Et encore, il y a plein de choses que j'ai pas le temps de vous raconter. J'ai un dossier de plus de 400 pages des choses affligeantes.
Vous aviez mentionné tout à l'heure le fait que si vous portiez plainte et que c'était le même JAF, ça allait tomber à l'eau. Alors, qu'est-ce qui est possible de faire pour ne plus avoir affaire à lui ?
Au niveau du JAF, il y a juste l'appel. L'appel et attendre 2 ans.
Non, mais en espérant que ce soit un autre, comment ça peut se faire, ça ?
Il n'y a aucune solution.
Il n'y a pas de solution.
Je peux pas... Si je veux avoir affaire à un autre JAF, c'est quand mon fils sera parti chez sa mère, vu que c'est un autre département, parce qu'on habite presque en frontière des départements.
Oui.
Donc, c'est à 70 km. Et du coup, il faut que je me mette en liste d'attente de ressaisir le JAF du tout début, puisque c'est un autre département. Mais c'est pareil, les délais d'attente sont de 1 an et demi, 2 ans.
Oui, c'est ça.
Et donc, du coup, en fait, il faut que je croise les doigts pendant 2 ans, que tout se passe bien là-bas, et que mon fils se reconstruise,
Et oui, parce que la priorité dans l'histoire, c'est lui. Hein.
Bien sûr, moi, c'est mon fils. Le problème, c'est que moi, je me suis toujours occupé de lui et je suis le seul, du coup, maintenant, avec qui il n'a jamais été séparé. Et on a une relation très, très forte.
Hein. J'imagine,
voilà, je comprends pas comment est-ce que la justice française peut fermer les yeux là-dessus. Je n'arrive pas à comprendre, je veux dire, je n'ai pas de casier judiciaire. Alors effectivement, elle et moi, on ne vient pas du tout du même milieu. Dans ma famille, il n'y a aucune histoire. Et même ça, j'ai essayé de l'expliquer, je l'ai démontré. Son ex-mari, le père d'un de ses enfants, il vient de sortir de prison après 4 ans de prison pour trafic de drogue et d'armes. Son premier mari, ça a été pareil. Son père... C'était un gros narcotrafiquant sur Paris. Sa mère, elle n'a pas eu ses enfants. Ils se sont tous retrouvés à la DAS. Elle a sa sœur qui n'a pas la garde de sa fille.
Non, mais ça paraît aberrant. Ça paraît fou, cette histoire. C'est un mauvais scénario de film.
C'est fou. C'est un très mauvais scénario de film. Mais le problème, c'est que l'acteur principal là-dedans, c'est mon fils.
C'est ce petit bonhomme qui est au milieu de tout ça. Ben oui, bien sûr.
Mon fils qui est si fragile encore. qui n'a rien demandé de tout ça. Le pauvre, il va payer des erreurs que moi j'ai pu faire, de faire un enfant avec une personne comme ça et de ne pas ouvrir les yeux.
Bah, vous ne le saviez pas à l'époque. Vous le saviez
pas. Réelle erreur.
Oui, mais ça, une fois de
non,
plus.
Non, je ne savais pas. Mais...
Si au moment où on fait des erreurs, on savait, on ne les ferait pas.
Bien sûr. Mais le problème, c'est que moi, pour rectifier cette erreur, je me bats depuis 2 ans.
Mais oui.
Je me bats dans l'éducation au quotidien pour imposer une éducation, que mon fils ait des valeurs, parce que moi, j'ai été éduqué par une famille où on a énormément de valeurs, beaucoup de respect.
Ça s'entend, Romain, quand on vous écoute. Il y a beaucoup de messages de soutien pour vous qui arrivent par SMS. Hein, vraiment, beaucoup de gens qui vous souhaitent que les choses s'apaisent, que vous y arriviez, qui vous disent que vous êtes quelqu'un de bien.
C'est gentil, mais le problème, c'est que j'ai pas de solution. Je ne sais pas comment faire quelque chose. Mon avocate me dit aussi que en passant par les médias, il faut faire attention parce que le juge
peut mal le prendre aussi. Oui, tout à fait.
Voilà, il pourrait un peu m'avoir dans le nez, mais le problème, c'est que avec les dires de mon ex-compagne, il m'a déjà dans le nez. Donc en fait, si vous voulez,
Mais ce que je trouve dramatique, c'est qu'on entend de plus en plus d'histoires comme ça. Et je sais que chez Olivier, la semaine, il y a beaucoup de témoignages de papas qui sont dans des situations souvent dramatiques et souvent très injustes aussi.
Oui. Il y a beaucoup de papas. Enfin, je suis dans SOS Papa et une autre association aussi où on discute. Hein.
Oui.
Il y a des situations incroyables. Et le père a vraiment une place inexistante, en fait. Moi, je suis persuadé, vous voyez, je suis persuadé que si ça avait été l'inverse, si ça avait été une femme qui s'était fait taper par son conjoint, si le papa était parti et qu'il avait quitté la maison et abandonné toute sa famille, sans parler en plus de tout ce qu'elle a fait, sans parler de la pseudo-radicalisation, sans parler de tout ça, à aucun moment, ce papa-là, en faisant une telle chose,
n'aurait eu la garde.
Pu prétendre à ce que... Et puis, le pire, c'est même pas qu'elle a eu la garde. C'est que les choses se sont inversées. C'est-à-dire qu'elle a eu des visites médiatisées et sous pression de l'enquêtrice, malgré les visites médiatisées, je lui ai permis de voir son fils en dehors des visites médiatisées.
Ouais.
Et malgré tout ça, on me reproche de l'empêcher de le voir, alors qu'elle le voit. Enfin, moi, j'ai fait des chemins, j'ai fait des allers-retours, j'ai fait 150 bornes, enfin l'aller-retour, quoi. J'ai fait l'aller-retour pour qu'elle puisse le voir même 2 heures.
Alors, j'allais vous poser la question et quelqu'un la pose par SMS aussi. Est-ce que vous avez contacté le procureur de la République ?
C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Et je pense que mardi, parce que lundi c'est férié, je pense que mardi, c'est ce que je vais faire. Parce que je ne peux pas laisser mon fils repartir chez ma mère, chez sa mère, et en tout cas repartir dans l'inconnu comme ça.
Ouais. Et puis il y a quelque chose aussi autour de cette femme, l'enquêtrice, parce qu'il est clair que c'est à ce moment-là que ça a basculé. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Est-ce qu'elles ont un lien quelconque ? Est-ce qu'il y a une raison ? C'est bizarre quand même.
Je pense que après, voilà, on est tous humains. Après, sans vouloir paraître misogyne ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a aussi ce lien femme-femme.
Une solidarité féminine, vous voulez dire ?
Je ne sais pas si c'est vraiment une solidarité féminine, mais en tout cas, je pense qu'une femme peut-être plus se projeter dans la vision et dans les sentiments que va lui expliquer une femme qu'un homme.
Enfin, de là à ne pas aller regarder le fond du dossier, c'est dramatique quand même.
C'est dramatique, mais surtout que cette enquêtrice n'est pas utilisée comme enquêtrice, elle est médiatrice. Elle est médiatrice dans le département où je suis, et comme dans le département où je suis, il y a peu d'enquêteurs, elle a servi d'enquêtrice sociale. Et oui, moi, au final, j'en veux forcément à l'enquêtrice, mais sans vraiment lui en vouloir. La personne là-dedans qui a pointé, c'est la mère de mon fils qui est capable de manipuler les gens, qui est capable d'avoir ce pouvoir, de pouvoir faire changer d'avis les gens, de manipuler des personnes, comme elle a pu faire avec moi pendant 7 ans,
oui, et
que je puisse mener cette vie-là avec les yeux complètement bandés. Et au final, ce qui est très ironique, c'est que un des premiers messages, quand elle a essayé de revenir, justement tout à l'heure vous m'en parliez, de revenir vers moi pour revoir son fils, après tous les mois, après notre séparation, après tous les mois où elle ne l'avait pas vu, son premier message c'était qu'il ne fallait pas qu'on joue au con, parce qu'elle était couverte de tous les côtés. Ce message-là, je l'ai donné aussi au JAF.
Qu'est-ce que ça sous-entend, ça ?
Je ne sais pas ce que ça sous-entend. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'elle connaisse des gens qui soient bien placés ou qui aient n'importe
quel. Vous m'avez parlé de son père qui était quand même pas très clair.
Ouais, mais bon, son père, il était plutôt narcotrafiquant plutôt que député ou élu ou ce genre de choses.
Ouais.
Donc, son père était un homme violent. Il a fait de la prison parce qu'il a tabassé sa mère et il a sévèrement tabassé. Et il faisait du gros trafic de drogue. C'était pas du petit vendeur en bas d'un bloc.
Je suis en train de réfléchir en même temps à ce que vous me disiez d'alerter la presse, mais c'est vrai que c'est vraiment à double tranchant. Je ne sais pas si je le ferai.
C'est ça.
Parce qu'on peut, en presse locale, on peut faire parler de ça, mais ça peut se retourner contre vous.
Mais le pire, ce qu'on me dit dans les associations, c'est que c'est surtout en presse locale. Ils m'ont dit attention sur la presse locale, parce que les premiers, c'est ceux du département, ceux de la préfecture en tout cas, qui vont tomber dessus. Et tu peux être sûr que le juge,
s'il tombe
dessus, il ne va pas apprécier du tout. Encore qu'après, si c'est un gros média, si c'est quelque chose avec plus d'interlocuteurs, et si à ce moment-là, il y a des gens plus importants qui s'en mêlent, le juge,
c'est pas garanti.
Il va se poser d'autres questions.
C'est pas garanti.
Mais c'est pas garanti non plus.
Là encore, ça peut être à double tranchant.
Mais il faut que je fasse quelque chose pour mon fils, parce que mon fils est, je pense, vraiment en danger.
Déjà, le procureur de la République, ça me paraît la priorité. Et que votre avocate remue la terre entière, c'est son boulot.
Oui, j'ai déjà payé beaucoup. J'ai déjà payé plus de 6000 euros d'avocat.
Et comment vous tenez-vous moralement, Romain?
J'ai eu la chance de refaire ma vie, de rencontrer quelqu'un quelques mois après m'être séparé, et j'ai pu découvrir une nouvelle relation où j'ai retrouvé l'amour, mais aussi où j'ai découvert qu'une relation amoureuse, c'était aussi une grosse relation amicale. Je ne subis pas d'humiliation, au contraire, on rigole comme des enfants. Ça m'aide beaucoup, même si c'est pas toujours facile, parce que elle aussi elle empathie.
Bien
en ce moment on est très tristes tous les deux parce qu'elle a forcément noué des gros liens avec mon fils.
Mais elle vous donne l'énergie de tenir, quoi.
Elle me donne l'énergie de tenir, et puis les gens autour de moi m'appellent, m'envoient des messages, ils sont autant abasourdis que moi, mais tout le monde me soutient, et je pense que c'est ça qui permet de tenir. Mais je pense aussi que malheureusement, tant que je suis dans ce combat-là, ça me permet de tenir. Le jour où j'ai l'impression que le jour où je serai plus dans ce combat-là, ou si on me dit vraiment que c'est terminé, tu peux plus rien faire, j'ai l'impression que je vais pas tenir. Par contre, s'il n'est pas mon fils en sécurité,
je comprends. Pour l'instant, vous avez besoin de cette énergie-là pour vous battre.
Oui. Oui, complètement.
Je comprends, Romain, c'est violent ce que vous vivez, ce que vous traversez.
C'est très violent. Et si moi je me prends un coup derrière la tête comme ça, je pense que pour mon fils, qui a déjà subi un traumatisme au moment de notre séparation, je pense que ça peut être encore un énorme traumatisme qui peut marquer sa vie. Qui peut être déterminante dans sa vie.
Bon, là, pour l'instant, dans des situations comme ça, il va falloir avancer jour après jour. On est encore au mois de mai. Vous l'avez de toute façon, quoi qu'il arrive, jusqu'à fin juin.
C'est ça, jusqu'au 6 juillet.
Jusqu'au 6 juillet, d'accord. Donc, il faut vraiment chaque jour trouver le maximum d'arguments, le maximum de gens qui vous aident. Voir avec le procureur, voir avec votre avocate.
Oui.
Il y a Yvette qui écrit « Passer directement par Dupont-Moretti ». Oui, je ne suis pas sûre que ce soit si évident que ça.
C'est pas facile. J'ai envoyé des courriers. Il y a des papas qui m'ont dit qu'ils essayent de le contacter depuis longtemps. Et ça ne fonctionne pas au niveau de l'État. Il n'y a pas vraiment de ministre. Encore moins, c'est le ministre de la Justice. Il ne veut pas se mouiller pour aller contredire ses juges.
Oui, j'imagine que c'est pas si simple. Les méandres de tout ça, c'est loin
c'est
de nos univers à nous.
Complètement, complètement. J'ai jamais eu de problème avec la justice. J'ai eu peut-être 2 amendes pour excès de vitesse de moins de 10 km/h dans ma vie. Et voilà, c'est un monde que je connais pas du tout, et ça me fait tout bizarre de me retrouver au milieu de tout ça.
Mais en tout cas, il y a de la chance, votre petit bonhomme, d'avoir un papa comme vous.
Oui.
Et oui, je pense
c'est
que
possible. J'ai de la chance de l'avoir parce qu'il me le renvoie bien.
Comme vous me disiez tout à l'heure, c'est un enfant qui a des valeurs, qui est gentil. Ben, on devine d'où ça vient aussi en vous écoutant.
C'est possible. Je pense que j'ai été élevé dans ce sens-là et que j'essaye de transmettre ce que toutes les valeurs qu'on m'a inculquées.
Mmh. Et votre maman, elle vous soutient là en ce moment, elle est là?
Ma maman me soutient, oui, bien sûr. La pauvre, elle morfle aussi, c'est-à-dire qu'elle prend des antidépresseurs parce que c'est compliqué pour elle, parce que c'est son unique petit-fils et qu'elle a un lien très fort avec lui. Et c'est très difficile pour tout le monde, pour toute la famille. J'ai mes tantes qui m'envoient des messages tous les jours. J'ai une tatie qui dort pas. Elle me dit qu'elle dort pas la nuit. C'est très, très difficile. C'est très difficile parce qu'on ne sait, on sait pas où va se retrouver Issam et qu'on n'aura pas la main.
Et de l'autre côté, il n'y a plus aucun dialogue avec votre ex-belle-mère?
Non, pas du tout.
Non.
Rien du tout.
Pas le moindre moyen d'avoir une discussion un peu intelligente autour du petit, quoi.
Pas le moindre contact avec n'importe qui de sa famille. Ce qui, au fond, me touche beaucoup moins maintenant, même pas du tout. La seule chose qui me fait encore un pincement au cœur, c'est que là aussi, ces deux enfants que j'ai élevés pendant 7 ans et que j'ai aimés aussi, très fort.
Vous les voyez plus?
Je ne les ai plus jamais revus.
Oui.
Plus jamais. Et c'est, enfin, son fils aîné s'en sortira parce que c'est sans vouloir me jeter des fleurs, mais parce que je suis entré dans sa vie à un moment donné et que je m'en suis occupé.
Vous l'avez structuré un petit peu.
Oui, totalement.
Mais vous savez ce que j'étais en train de me dire, et faut pas le souhaiter parce que c'est pas joli. Mais ce qui pourrait arriver, c'est qu'elle se tire une balle dans le pied toute seule en dépassant des bornes, soit à cause de la drogue, soit à cause de l'alcool. Et qu'elle ait à un moment donné un comportement qui fasse que là, pour le coup, le JAF dira on lui retire l'enfant, quoi.
Oui.
Et vu tout ce que vous m'avez raconté, c'est pas impossible que ça arrive aussi, ça.
C'est pas impossible, mais bon, elle a un enfant de 15 ans qu'elle a toujours. Donc, elle arrive à passer facilement entre les mailles du filet. Et voilà, à part la fois où son grand a pu dire qu'elle le frappait, au final... Elle a discuté avec l'assistante sociale à la maison, mais c'est passé comme une lettre à la poste, et voilà.
Elle est forte, elle est très manipulatrice.
Très, très manipulatrice. Ouais. C'est une personne toxique, que ce soit en tant que compagne, que ce soit en tant que mère, que ce soit en tant qu'amie. C'est quelqu'un de très toxique.
Ouais. Romain, vraiment, on a plein de messages de soutien pour vous. Je vous les transmets globalement pour vous dire que tout le monde vraiment pense à vous, vous soutient.
C'est gentil.
Pensez au procureur. Donnez-moi des nouvelles, oui, s'il vous plaît, quand vous l'aurez eu, quand ça aura évolué, tout ça.
D'accord.
Gardez courage.
D'accord.
Gardez tout ce que vous avez, oui, comme énergie positive pour vous et pour le petit bonhomme.
Oui. Hein, oui, oui.
Projetez-vous vraiment vers des choses positives pour vous.
Oui.
Je sais que c'est plus facile à dire qu'à
faire.
Oui, bien sûr.
Il y a des choses très positives qui vont arriver aussi parce qu'en plus d'avoir refait ma vie, avec ma compagne, on va avoir un bébé.
Ah ben vous voyez.
Ma compagne qui est infirmière aussi.
Il y a de belles choses qui arrivent.
Il y a de belles choses qui arrivent et mon fils qui parle beaucoup de son futur petit frère qui arrivera bientôt. Et
bon, bah on va croiser les doigts très très fort pour qu'il n'y ait que des jolies choses, oui, maintenant qui se passent.
Oui, j'espère.
Et promettez-moi de me rappeler pour me donner de vos nouvelles, Romain.
Oui, ça marche. Ça
d'accord.
Marche.
Merci, merci d'avoir eu le courage de témoigner ce soir.
Merci de m'avoir écouté.
Merci à vous. Au revoir, Romain.
Merci beaucoup. Au revoir.
Il est presque 1h du matin, ça veut dire que la libre antenne en direct c'est terminé. Merci à tous d'avoir été là. Notez que demain soir on va se retrouver un tout petit peu plus tard. Oui, je sais, c'est pas de ma faute, il y a du foot. Donc rendez-vous à partir de 23h30 pour un nouvel épisode de cette libre antenne. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Ne laissez pas plus tard devenir jamais. Passez une bonne nuit et à demain.
Europe 1. 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.